ça va essayer de ramasser mon courage, regarder le monde autour de moi. Mais finalement, ça, j'ai fait. J'ai formé mon laptop, j'ai fait la moitié de l'examen. J'ai donné les papiers au prof, puis je suis sorti.
Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas être millionnaire?
Ben, je dirais que oui, là. Je pense que là, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens que, je parle pas de plusieurs millions, mais un million, c'est pas nécessairement si dur que ça.
Comme le fait tout le monde, on va te demander de te présenter un peu. C'est quoi ton background, ton parcours académique?
Ouais, puis parfait. Ben, je vais commencer, je pense, par juste... commencer de manière situationnelle, là. Je viens d'Edmundston.
Ouais.
Sam, lui, vient... Je sais pas si t'as déjà parlé de ça sur ton podcast, mais du Lac Baker.
Ouais,
non.
Ok, ouais.
Merci. Ouais, juste dire ça de même.
Préciser. Non, je suis pas sûr que je l'avais déjà dit, mais non.
Ouais. Ça, pour le monde qui regarde, ça a peut-être pas essayé deux places. Edmundston est situé pas mal entre Québec, les États-Unis. On est pas mal rien qu'à l'entrée du Nouveau-Brunswick, là. En tout cas, je m'enligne avec ça. Moi pis Sam, on s'est rencontrés, je pense, en 9e année.
Ouais.
Polyvalente.
Ouais. Peut-être on s'était vu avant. Tournoi de bord à bord.
Ouais, on jouait tous les deux du bord à bord. S'il peut avoir ça.
On s'était croisés là sûrement. Là.
Mais tu sais, je pense qu'on était dans des cours ensemble en polyvalente.
Ouais.
Bon, ça, comme on a vu un petit peu cet été, là, on a prêté une ride en canot. C'était pas mal le fun. Là. Mais ouais, un petit peu plus à propos de moi. Comme je disais, je viens d'Edmundston. Ma mère est française. Mon père est américain.
Française de France.
Non.
Ok.
Non, j'ai juste dit, toi, j'aurais dû juste dire, comme t'es Brayon, ça c'est le monde okay, de notre coin.
Ouais. Francophone.
Ouais, francophone. J'ai eu une enfance pas mal normale, j'ai un frère, une sœur. À partir, je pense, je dirais du secondaire, j'étais pas trop sûr et je m'enlignais. Soit j'ai juste été comme engineering, je trouvais ça matchait un petit peu mes atouts, là. Qu'est-ce que j'avais remarqué pendant mon temps secondaire.
À UNB, hein.
Ouais, ça là j'étais à UNB, c'est ça, à Fredericton. On était une bonne gang de chums qui rendent ça le fun. Mais c'est ça, je pense, après comme 2 ans, puis moi pis ça, on en a déjà parlé, là, que j'ai réalisé que c'était peut-être pas pour moi. Je me rappelle pas comme...
Ouais.
C'est supposé être une période qui est comme... Tu te développes comme personne à plein. Puis oui, je développais, mais mon côté social, puis les interactions que j'avais avec les gens, je trouve que ça semble à pire, si ça fait du sens, parce que c'était vraiment juste technique, là.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Comme tu passes vraiment un gros de temps, tu sais, c'est gros... C'est de la physique, des maths. C'est vraiment plus du stuff vraiment technique. Il n'y avait pas de cours. Mais bref, vraiment, il n'y avait pas de cours qui étaient dans mes intérêts. Comme je pas ça, comme la maths puis les sciences pour le challenge. Mais on dirait qu'après, tu sais, j'ai fait ça 2 ans et demi, là. J'étais comme tanné, là. Je trouvais que je travaillais pas. Des sujets que j'aime comme l'histoire, la politique, la communication. Tu sais, pas gros de public speaking non plus, là.
T'étais bon à l'école?
Ouais, quand même, là. Je dirais...
C'est quoi ta moyenne, ouais?
Ça devait être... Comme entraîneur de la polyvalente, ça devait jouer entre 92-95.
Ouais, ouais.
So,
Est-ce que le fait que t'avais des bonnes notes, t'as eu une influence vers aller dans les sciences?
Ah, 100%, ouais.
Est-ce que cette influence-là vient de l'extérieur ou de l'intérieur?
L'extérieur.
De ouais. Qui?
L'école, les parents. Surtout, je pense, dans notre coin, pis c'est pas... Tu sais, c'est une petite place, là. Mais je pense qu'il y a un manque. Ça ne dit pas en français de l'exposition. En anglais, c'est de l'exposure.
Exposure, ouais.
L'exposition, je sais pas. On va dire que c'est ça. Mais ouais, il y a un manque un petit peu des différentes opportunités. On dirait que c'est tout le temps les sciences qui sont poussées, qui n'est pas une méchante affaire non plus. Là. Je pense que je suis vraiment quelqu'un qui crée que ça prend une base générale pour la plupart du monde. C'est une bonne affaire d'être assez calé dans les sciences, mais... Fin de la journée, je pense, je m'aurais écouté, j'aurais été comme d'un domaine relié à la business du début.
Ouais.
Puis c'est ça que j'ai transitionné dedans une fois que j'ai réalisé que l'ingénierie, c'était pas pour moi, là. Tu vois, j'ai été finalement en administration. J'ai fait une couple de stages que, tu sais, je recommande à tout le monde quand t'es à l'Uni, là. Comme, c'est ça. Si t'es pas dans un domaine comme calé en science, tu vas vouloir pogner, tu sais, de l'expérience sur le marché du travail, là. Pour apprendre à te connaître, qu'est-ce que t'aimes, pis tout, tu fais sûr que t'es dans la bonne voie, là.
Puis là, c'est quoi qui a fait en sorte que t'as compris que t'étais pas à bonne place?
Juste le fait que je m'en venais comme... Tu sais, je faisais quand même des bonnes notes. C'était un cours qui était tough, mais ça allait bien, là. Comme, tu sais, je passais mes cours, puis... je m'en venais juste de plus en plus malheureux. Puis tout qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ma vie allait bien. Puis le monde autour de moi, il me le disait comme... Tu sais, tu devrais juste lâcher, ça fait un bout que t'aimes pas ça, mais j'étais un petit peu... hard-headed, là.
Pourquoi?
Ma fierté. Je trouvais ma fierté, c'était sa ligne. So,
ouais.
Jusqu'à temps que je réalise que... c'est quand j'ai décidé que comme... Pis ça, c'est quand même de quoi drôle, pis là, je reparle de là, pis tout le monde va enjoyer ça, là. Ça, comment j'ai lâché? Ça, c'était session d'examen direct avant Noël. Je rentre pour le test, tout le monde est stressé. C'était un cours de thermodynamie, le deuxième. Okay? Puis, non, pas de stress. Ça, je commence le test. Ça fait peut-être une demi-heure. Je fais la moitié du test. Puis je commence quasiment comme une vue. Je commence à regarder l'horloge. Je regarde mon test, je regarde l'horloge. Puis on dirait que ça me fait cela comme sold site. Comme t'aimes pas ça, c'est pas fait pour toi. Oh, tu t'arrangeras plus tard, foutu ça. Ça, j'essaie de ramasser mon courage, je regardais le monde autour de moi, mais finalement, ça, j'ai fait. J'ai fermé mon laptop, j'ai fait la moitié de l'examen. J'ai donné les papiers au prof, puis je suis sorti. T'sais, c'était drôle, parce que quand je parlais avec le monde de mon cours après, les autres pensaient, hey, Krim, Phil a étudié, il était prêt, il a fait ça dans une demi-heure, l'examen de 2 heures, là, t'sais. Mais non, j'ai fait la moitié. Mais, on dirait que je le savais direct dans le moment, quand j'ai sorti
du cours, de la
ouais,
salle.
La salle de gymnase qu'on était dedans, que j'avais fait la bonne décision. Je savais pas ce que j'allais faire après, mais on dirait que c'était comme un gros poids soulevé dans mes épaules, puis on dirait que je savais que je m'en allais dans une bonne direction.
Là. Nice.
Ouais.
Nice. C'est vraiment intéressant, ça. Fait que, c'est juste comme, en même temps, ça s'est fait tranquillement, t'as comme... j'étais pas bien, puis là tu gardais à cause de ton ego ou ta fierté,
ouais,
ou tu fais pas te décevoir parce que t'étais dit
ça.
je vais le faire, comment c'est quoi tu le finis là?
Ouais.
Tu penses-tu que ça, cette phrase-là, tu sais, on finit ce qu'on commence, là, on entend ça beaucoup, là, tu commences de quoi, finis-le, fais-le à 100%, tu penses-tu que c'est positif ou plus négatif? Est-ce que c'est... Vas-y,
ouais. Bonne question, ouais. À la plupart des cas, je pense que c'est positif, là. Je pense vraiment que... T'sais, c'est bon d'avoir des challenges, puis passer à travers, puis pas lâcher, même des fois quand c'est vraiment dur mentalement. Mais il y a une limite à tout, hein. C'est comme après un bout, là, si tu vois que ça s'améliore pas, c'est important de s'écouter soi-même. Tu sais, des affaires qu'on n'aime pas, qu'on trouve difficiles, mais on sait qu'on devrait continuer. Mais des fois, dans ce scénario comme que je viens de t'expliquer, c'était, comme tu as dit, c'est vraiment avec mon ego qui parle à ce point-là. Là. En dedans de moi, je savais que j'allais pas finir ingénieur, mettons, là.
Fait que, mettons, si je paraphrase ou je résume, là, si c'est motivé par l'ego, c'est peut-être un signe que c'est pas pour toi ou tu devrais peut-être arrêter le projet que tu t'es embarqué dedans.
Ouais.
Mais si c'est motivé, mais si t'es dans la même situation, mettons, t'aimes pas ça pis tu trouves ça dur, mais t'es motivé parce que tu penses que, j'imagine, c'est important ou tu penses que au long terme ça va payer pis.
C'est ça.
Tu sais, tu vois le bénéfice à long terme, là, peut-être que c'est bon de suck it up pis comme continuer.
C'est
right?
ça. Ouais, c'est pas une manière de mettre ça, je pense, que t'as expliqué. C'est vraiment, c'est quoi le driver en arrière de pourquoi tu continues, là.
Ouais. Puis là, aujourd'hui, j'imagine que tu regrettes pas.
Non, vraiment pas. So, à partir de là, mes stages, c'est juste donner une idée, tu sais, des parcours universitaires, ça peut être différent pour tout le monde, là. Si jamais il y a du monde plus jeune qui écoute. Tu sais, quand j'étais en administration, j'ai vraiment comme... tombé en amour assez drôle avec la comptabilité, quand j'avais vraiment un cours de ça. Peut-être c'est mon côté ingénieur un peu qui comme aimait la structure de ça. Mais là, j'ai fait un stage en comptabilité. Réalisé, c'était pas pour moi. Après ça, j'ai eu un stage en marketing plus, un petit peu de vente. Là, je m'enlignais plus dans la bonne direction. Puis là, mon troisième stage, c'était vraiment cool. La vente puis du marketing. Ça, là, ça a comme vraiment solidifié. J'avais plus le côté vente.
Ok.
So, c'est là que j'ai décidé que, ok, je drop ma majeure à comptabilité. J'ai gradué le plus vite possible avec un bac général en administration.
Fait que t'as droppé comptabilité même si t'avais tombé en amour avec ça?
Ouais.
Fait que t'aimais encore plus la vente que t'aimais la comptabilité?
Ben, c'est que j'aimais. Encore là, c'est ça que le monde parle des études. Je suis comme, faut pas que tu vois ça à cause du programme. Ça dérange pas si t'as un programme. Pense à ce que tu fais, mais que tu sortes. So, oui, j'aimais les cours de comptabilité, mais j'aimais pas la job d'être comptable.
Right.
Comparer les cours de marketing à l'université, puis peut-être les cours que je travaille un peu, je carerais pas, j'avais aucun intérêt là-dedans, mais je savais que la job à la fin de la journée, ça allait m'intéresser, parce qu'il y a un disconnect entre le monde académique puis la vraie vie. Là.
Bien dit ça.
Ouais.
Ah, bien dit ça. C'est la première fois que je l'entends dit de même, c'est vrai.
Ouais.
Il y a comme un mismatch entre ce que le côté académique t'apporte, puis ce que la vraie vie t'apporte. Là.
Yep.
Ça, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que je veux dire, non? Ouais, c'est ça. Puis j'en ai parlé avec Jacob justement la semaine passée. Tu sais, c'est comme André, moi quand j'étais plus jeune, je pensais que comme. Fallait que ce que tu choisisses, mettons, comme domaine ou parcours universitaire, ça soit genre ce que t'aimes.
Ouais.
peu importe de comment ça va être après, on dirait. Puis je me le disais pas comme ça, j'étais pas comme, ah, ce qui vient après, c'est pas important. Je savais que c'était important, mais j'étais comme, tu sais, si t'aimes ça, tu vas aimer la job automatiquement, genre.
Ouais.
Mais c'est pas le cas, là.
Non,
ça,
vraiment pas.
ça a pas rapport pantoute, là. Puis même le cours que tu fais, ça va pas nécessairement non plus dicter, ça dépend des programmes, ça va pas nécessairement dicter la job que tu vas faire après non plus.
Ouais.
Mais si t'as un plan clair, puis tu sais que la job après, c'est ça que tu vas faire, ben.
Ouais, puis surtout dans cette, comme tu dis, je pense que c'est plus important que jamais parce que les coûts universitaires arrêtent pas de monter. Tu sais, le coût de la vie, premièrement, s'il faut aller en dehors. Puis après ça, juste les coûts d'aller à l'université. Que c'est pas juste de quoi je fais, que tu peux juste faire comme aléatoire, puis dire comme, OK, j'aime mon coût, puis je figurerai après. Parce que, pas. C'est un investissement. Tu sais, ils ont dit ça à l'école, c'est un investissement, mais. Ben, vois ça comme un investissement réel. Comme, c'est quoi ton return on investment à la fin de ça? Dis-toi pas juste parce que tu vas aux études que c'est un investissement. Faut vraiment t'aies un outcome, un plan dans ta tête, que
Qui
ça
va
vaut la
rapporter.
peine, puis ça va rapporter. So.
Parce que c'est pas tous les investissements qui vont rapporter. Si on prend
Ben
un
non,
investissement
c'est
financier, tu
ça.
peux mettre l'argent dans, je sais pas, Tesla, genre, puis la Tesla
C'est
crash.
ça.
Puis... Ça, c'est un exemple plus positif-négatif, là,
C'est
mais
ça.
je pense que ça revient même si, mettons, tu dis, OK, je vais faire un cours en, mettons, j'aime l'art.
Ouais.
C'est l'art, je pense, le meilleur exemple.
Ouais.
Là, tu vas en art, puis là, tu sors là-dedans, t'es comme, OK, il y a personne qui veut m'engager. Ben, exact, tu sais. Fait que t'aurais peut-être dû penser à autre chose, là.
Puis c'est là que tu sais, je dis, puis encore là, tu sais, peut-être un programme en or, c'est. Il y a peut-être une opportunité là, mais je pense que je le ferais à l'inverse, un petit peu comme tu viens de décrire. Comme je trouverais que si je veux faire en or, je m'essaierais de faire ça, surtout dans les domaines de même, j'essaierais de faire ça sans bac en premier.
Ouais.
Puis si jamais je vois qu'il manque de quoi, mais au moins là,
On
je
va le
comprends
chercher.
plus mon outcome, ça, je peux retourner pour aller chercher. Comparé à faire le contraire, je veux dire, c'est. Je trouve ça un petit peu.
Je pense qu'on fait tout ça.
Voilà, puis pas nous autres.
T'sais, puis je trouve que c'est ça que tu t'expliques là, ça devrait être la job des orienteurs. Puis je trouve tellement que, excuse-moi, je vais pas bâcher les orienteurs, mais je vais bâcher les orienteurs comme ils font une job de merde. Comme, excuse-moi, mais c'est. Je trouve ça, je le dis parce que ça me dérange pas de blesser personne parce que c'est vraiment pas correct pour les jeunes.
Ouais.
T'sais, j'aime autant blesser du monde en disant ça que. Puis si ça peut changer, là, en tout cas,
Ouais.
bref. Dans le sens que moi, quand je suis allé voir les orienteurs, ils ont regardé mon bulletin, puis j'imagine tous un peu dans ma affaire, ils ont regardé mon bulletin, ils ont fait comme, ah, tu t'en vas en DSS, genre. C'est bon d'aller en DSS, c'est bon d'aller dans les sciences,
Ouais.
ingénierie ou, tu sais, des gros cours plus, qui demandent plus de capacités académiques, mettons, là. Puis j'étais comme, ah, ok, parfait. Puis moi, je m'en allais là-dessus dans ma tête parce que,
Ouais.
justement, comme tu sais, un peu, ça rejoint mes atouts puis mes forces, là, je sais comment je vais aller là-dedans. Puis je m'étais pas trop questionné à comme la job après, puis que je vais faire après, puis j'étais comme, ah, je sais pas trop dans la DSS, mais. Fait que je trouve que comme qu'est-ce que t'expliques là, ça devrait dire, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? C'est quoi une job que t'aimerais essayer? Parfait. C'est quoi les options que t'as pour te rendre là? Essaye ça, puis si ça marche pas, ton plan B, c'est ça, ton plan C, c'est ça, tu sais.
Ça fait du sens, comme je pense, oui, ça pourrait être réinventé un petit peu au niveau de l'orientation, mais encore plus grand son agrandisseur qu'un peu, là, c'est comme, je pense que c'est un petit peu de même, parce que la pression des parents et tout,
Ouais, c'est
ils
tout.
veulent que ça soit comme déterminé, que comme quelqu'un va leur dire à leur jeune, probablement à toi, ça irait mieux ça, il n'y a personne à cet âge-là qui sait vraiment, là. T'sais, il y en a peut-être, oui, qui sont chanceux, puis ils savent, mais c'est quand
Right, c'est pas vraiment.
10-15% de l'équation, là.
C'est pas vraiment, ouais, c'est ça.
So.
Mais le problème, j'imagine, c'est que. Mais en fait, c'est faut que tu saches quoi ce que tu veux,
Ouais.
right? Mais pour savoir quoi tu veux, faut que tu essayes quelque chose.
C'est ça.
Mais le problème, c'est de. Parce que. Je dis ça parce que, mettons, dans mon cas, ça a été un peu ça. J'ai commencé mes études, puis
Ouais.
j'ai jamais vraiment aimé ça. Mais j'ai tout le temps continué, j'ai jamais arrêté. J'ai fini par graduer, tu sais. J'aurais dû peut-être lâcher puis changer de branche. Aujourd'hui, j'aime ma job, par exemple.
Ouais.
Là. Je suis comme bien
Ouais.
tombé que je n'aille pas ma job quand même. Là. Mais il faudrait trouver une façon parce que, t'sais, que les jeunes cachent qu'à un moment donné, c'est pas. Si tu commences absolument, comme si tu commences ton programme, t'es absolument supposé être fini. Puis là, peut-être que c'est plus personnel à moi aussi. C'est peut-être pas un problème général parce que tout a lâché, pas moi. Fait que
Ouais.
bon, bref. Mais c'est quand même important, je trouve, d'être capable de voir qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis comme on disait tantôt, là, si c'est poussé par l'ego, ben là, faut que t'arrêtes là.
C'est ça.
Ça vient de dire ça, je pense. Continue là, ton parcours après ça,
Ouais.
ouais.
Cela, juste pour mettre en contexte, parce qu'on va parler un petit peu, tu sais, je pense que dans notre plan, on a parlé de ça, parler un petit peu de la vente, là, parce que c'est
Ouais.
ça le domaine que je suis dedans. So, en graduant, j'ai été. C'est un job de vente comme de cold calling, genre. Ils appellent ça souvent, c'est comme Sales Development Representative
En
ou.
graduant
Plus,
d'admin,
ouais,
ouais.
en graduant d'admin. C'est à travers des connexions que j'avais faites dans un de mes stages. C'est tout du cold outreach, là. Ça, c'est vraiment. Le monde ne sont pas nécessairement intéressés ou savent qui ce que t'es.
Fait que c'est qui que t'appelles ou tu rejoins quelqu'un qui a aucune idée de qui ce que t'es,
C'est
puis...
ça. C'est le mot-clé qu'on essaie, c'est. c'est assez de builder de la pipeline. So, la pipeline, c'est comme, si tu vois un cycle de vente, il y a plusieurs étapes là-dedans, puis la pipeline, c'est au début. So, on essaie de créer des opportunités. J'ai fait ça à peu près 6-7 mois. Puis c'est comme, tu sais, n'importe qui commence sa carrière, j'ai remarqué un petit peu comme, tu sais, j'ai appris de mon expérience engineering. Je trouvais, premièrement, c'est une position super difficile, là. C'est le début, dans le monde de la vente, c'est pas facile, ce rôle-là. Mais en tout cas, je m'en vais avec ça, c'est que j'ai remarqué et tout que, OK, c'est peut-être pas l'organisation pour moi, parce que, tu sais, comme je disais, même feeling, j'avais un petit peu en génie.
Puis c'était quoi la job? C'était quoi l'entreprise?
Ouais, ça, je nommerai pas le nom de l'entreprise.
Mais à peu près dans quel domaine?
Ah, oh, dans quel domaine? OK, ouais, bonne question. C'est encore dans le monde de la technologie, ça. C'est là, je travaille à Steur. C'est un différent produit. Comme là, tout de suite, je suis en cybersécurité, mais c'est un produit technologique. Qui est premièrement vraiment une industrie de fond à dedans. C'est jeune, c'est vivant. Mais en dehors de ça, l'organisation, je trouvais pas, je voyais pas vraiment la lumière en fin du tunnel.
Quand tu parles l'organisation, tu parles plus l'entreprise.
L'entreprise que je travaillais pour.
Okay. C'était peut-être pas avec ta façon de travailler.
Non, ou... c'est okay. ça. Okay. Encore là, j'ai réalisé, OK, là, je lâche prise là-dessus. J'ai pris une petite vacance, j'ai voyagé, je me suis changé les idées. Puis, par chance, il y avait un start-up, comme j'ai dit, j'étais à l'université à Fredericton, que j'avais déjà un œil dessus, j'avais entendu parler depuis le début, j'étais à l'université, qui s'appelle Boceron Security. Puis, il y avait un poste qui m'intéressait. C'était un petit peu plus c'est en cours de la vente, mais un petit peu plus avancé, parce que les relations étaient déjà établies, on va acheter notre produit. C'était vraiment plus de maintenir la relation, faire sûr qu'ils ont du succès avec le produit. T'sais, après ça, leur vendre peut-être d'autres produits similaires qu'on offre. Ça, j'étais un peu en train de faire des cold calls, mettons, là.
Ouais, c'est ça. Fait là, t'étais comme à l'autre extrême du processus de vente. Là. Fait que t'étais après la vente.
Après post-vente, ouais, c'est okay. ça.
Parce que comment t'appelles ça?
Ben moi, mon poste était Customer Success Manager.
Dans ce temps-là.
C'est vraiment ça, tu sais, ça le dit d'un mot. Ouais. Customer Success Manager. Ça, c'est un trend, le monde du Customer Success, là, que ça fait peut-être 10 ans que ça semble de plus en plus populaire.
Ah, ouais, okay.
Je pense que c'est peut-être Microsoft qui avait commencé ça.
Hmm.
Parce qu'on va réaliser que le model, c'est genre de me dire tout ça en français, là, mais le model des produits SaaS, là, Software as a Service, que tu sais, il réussissait à le vendre, mais une fois qu'il était vendu, il n'y avait pas si tant d'attention pour faire sûr que le monde avait du succès avec le produit. Ils sont en train de reacher les outcomes qu'on va parler de au début de la vente.
Right. Parce qu'il disait, avec ce produit-là, tu vas atteindre telle affaire. Puis, il y avait de la misère à vraiment atteindre leurs objectifs.
Personne ne les aidait pour les atteindre.
Ou personne ne les aidait, ok. C'est ça. Ouais. C'est un peu comme des fois, tu vas vendre un produit où il faut que tu achètes le produit, mais en même temps, il faut que tu fasses autre chose avec ce produit-là pour avoir un certain succès.
C'est
ça. Ça prend quelqu'un qui te guide dans ce que tu fais. Parce que c'est juste le produit, oui, c'est beau, mais tu n'auras pas de résultat. Là.
C'est exactement ça. Il y a eu un gros chiffre dans l'industrie au complet. Ça a commencé en technologie, mais ça s'est répandu, je pense, dans tous les autres domaines. Gros de domaines, en tout cas. Microsoft a réalisé que, ouais, faut qu'on ait du monde qui guide pour que le monde ait le succès avec un produit. C'est pas dire que le produit est mauvais s'ils n'ont pas de succès, c'est qu'ils ont besoin d'un guide.
Right.
Donc, inventer le premier Customer Success Manager, fait sûr que le monde a du succès, qu'ils reach leurs outcomes. Puis si le client est heureux, premièrement, ça te donne, tu sais, des case studies, des références que tu peux utiliser pour t'aider à vendre encore. Puis rien de meilleur qu'avoir un client à long terme, là. C'est bien plus payant. À chaque client que tu essaies d'avoir de nouveau, t'as un cost of acquisition, ça coûte la compagnie vraiment aller chercher un client là,
parce que c'est le salaire des vendeurs, les
employés, des efforts de marketing, infrastructure numérique, ça finit pas là. Tu fais un programme que t'as besoin, que tu payes pour avoir, tu sais, quand on parle de pipeline, lead generation, t'as des détails que ça te prend, comme c'est qui les bons contacts, tout ça, comme c'est des tools qu'il faut que tu payes pour là.
Ouais.
Ça monte vite
intéressant.
Ouais.
Intéressant. Fait que là, ben avec ça, avec ta job, le Customer Service Success
Manager.
ça aide à diminuer les coûts parce que ça t'aide à diminuer la nécessité d'aller chercher des nouveaux clients parce que tes clients deviennent long terme.
C'est ça.
Puis un client long terme, ben j'imagine aussi, ça dépense plus qu'un nouveau client.
C'est ça.
Parce que c'est sur le long terme.
C'est sur le long terme. Tu sais que tu peux garder les clients contents. Hein? Tu sais, quand tu forecastes tes nombres pour le futur, on est tout en train de mettre un certain pourcentage qui dit « OK, nous autres, on pense que ce client-là va rester avec nous autres. » So, quand on parle à des investisseurs, on peut forecaster un nombre, on dit. Tu sais, c'est tout le long-term play. Là.
Tu peux mieux planifier aussi ton futur parce que c'est pas pire ça. C'est intéressant ça. Ça, c'est. Ouais. Je pense en note pour.
Puis je dis ça de même et tout, là, surtout suite à ce qu'on a une période économique, on n'est pas trop sûr si on s'en va dans une récession ou pas. On est-tu peut-être déjà dans une, peu importe là. Il n'y a rien de mieux que juste investir dans un client que tu as déjà. Là. Parce que ça va être plus difficile, pas que c'est impossible, c'est très possible, là, mais c'est plus difficile d'aller acquérir de nouveaux clients, les budgets se font couper, le monde perd leurs emplois. Mais tu investis dans des clients que tu as déjà. Là. Assez fait sûr que les autres ont du succès, puis après ça, c'est de leur vendre d'autres produits. Tu as déjà une porte d'entrée. So.
Tu as déjà une relation
construite. D'établir, c'est ça.
Right, right. OK, ça, je prends ça en note pour ma business. C'est ça. Puis ça me fait penser à de quoi qu'on entend en business, là, que j'ai entendu à travers les branches, que tu sais, c'est 80% de tes clients font 20% de ton revenu, puis 20% de tes clients font 80% de ton revenu. Là.
C'est ça.
Ça fait penser un peu à ça, parce que c'est tes clients long terme qui font ton 80% de revenu. T'sais.
Ouais.
OK. Ça, c'est une petite parenthèse. Ça fait du sens.
C'est
un
bon point, ça.
All right. Fait que là, tu travailles là comme, justement, Customer Success Manager.
C'est ça.
Mais là, aujourd'hui, tu n'es plus ce travail-là.
Non.
À moins que tu aies autre chose à dire sur
ce sujet. Non, c'est pas mal ça, j'allais dire, ce sujet-là. Puis là, à travers de ça, j'ai eu. I guess, tu sais, j'ai été à cette compagnie-là, de suite, ça fait 2 ans. J'ai eu 2 autres postes à travers de ce temps-là. So, I guess, après ça, j'ai devenu. On travaille avec nos clients chaque semaine, tu sais, nos plus gros clients. D'habitude, on avait peut-être un meeting une fois par semaine, fait sûr qu'on avait du progrès. Vraiment, j'agissais comme un strategic advisor. Donc, j'ai appris gros à propos de notre produit.
Puis ça, c'est rapidement,
strategic advisor. Comme quelqu'un qui fait partie, tu sais, OK, so I guess, moi, c'est une bonne question. Quand tu as une relation avec un client, tu as plusieurs niveaux, là, que là, je m'en rappelle pas exactement un niveau comme. De quelle sorte de relation que tu as. Tu as des relations juste transactionnelles. Là, tu en as une dans le milieu que je ne me rappelle pas du nom. Mais après ça, le dernier level que tu fais, c'est un strategic partnership. Parce qu'il y a plus de communication, plus de trust. Ils vont peut-être te laisser savoir qu'est-ce qu'ils travaillent à l'intérieur de leur compagnie. Peut-être share it with l'information. C'est qu'ils partagent à voir n'importe qui.
Confidentiel.
Puis t'es là pour leur guider, leur aider, puis être une autre personne qui peuvent rely dessus, qui est en dehors de leur compagnie. Donc ça, c'est le dernier stage que chaque personne va établir avec leur client. Là.
Ouais, puis je trouve que ça fait vraiment du sens parce que je me dis, mettons, là, moi je relate avec ma compagnie de vidéo, là, tu sais, mettons, ça pourrait être quelqu'un qui se lance une petite moyenne entreprise, puis il va faire du marketing, puis là, ben, moi je m'occupe quasiment de leur marketing en disant, OK, ben là, telle vidéo va sortir là, mais elle est tel moment, ou mettre de l'emphase, mettre tant d'argent dans ta publicité, ou tu sais, je pourrais comme. Prendre ce rôle-là, fait que ça fait. Là, c'est cette relation-là, c'est plus ce que tu expliques là.
Ouais, c'est exactement ça. Là. Ouais. C'est vraiment le plus haut niveau du sport. Quand l'autre personne, il y a vraiment un gros niveau de trust entre les deux bords. Puis c'est. Il peut être plus nécessairement juste comme. Pour une fois, je m'excuse, j'ai pas de mot français. Okay. Comme t'es pas. Il peut être plus juste comme un vendeur. Quelqu'un qui vend un produit ou un service. Là. T'es un petit peu plus que ça. Là. C'est ça les relations que tu veux établir.
Puis là, ça c'était comme t'as rendu ta job dans ce moment-là. Puis là, tu sais que t'avais plus de.
Ouais, en faisant ça, j'ai appris gros à propos de notre produit, l'industrie qu'on est dedans, les problèmes qu'on arrange pour nos clients. Ça m'a amené à. J'ai eu beaucoup d'expertise plus technique. Encore, je pense, mon background d'engineering que j'ai eu m'a aidé là-dedans. Ça, j'ai vraiment appris le produit vraiment vite. Ils m'ont donné un nouveau titre. J'étais comme Customer Solutions Architect.
Okay.
Ça veut dire que je faisais. Quand c'était le temps de. Faire une démonstration de notre produit à nos des clients potentiels, peut-être plus au niveau technique. C'est là que j'étais rentré pour parler du produit, comment justement le succès, comment le réussir avec le produit. Donc, c'était vraiment plus comme un subject matter expert. Là. Avec ça, je travaillais un petit peu avec d'autres partenaires aussi. Là. So, quand je parle des partenaires, là, c'est... Oui, ça de même, ça coûte beaucoup. Quand je parlais de cost of acquisition d'un client... Un des gros coûts, c'est développer une équipe de vente, qui n'est pas de quoi de facile, parce que souvent, disons que tu es un vendeur, quelqu'un qui vend un produit, tu n'as peut-être pas plein de relations d'établis, dans peu importe la géographie que tu veux. Là. C'est, si tu focuses sur le Canada ou aux États-Unis. Donc, une des manières d'aider avec ça pour avoir plus de reach, c'est d'utiliser des compagnies qui ont déjà des relations d'établis. Si ils ont déjà des clients qui achètent d'eux autres, ça peut être du monde qui dans mon domaine qui revend du hardware, ils vendent d'autres sortes de services, peut-être similaires aux nôtres ou même de nos compétiteurs, mais avoir un partnership avec eux autres, est-ce qu'ils revendent notre produit? Mm. Donc là, c'est moins difficile de trainer quelqu'un qui a déjà une équipe de vente.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça qu'on appelle des partnerships.
Mm-hmm.
So, quand j'étais Solutions Architect, je passais gros de temps à premièrement montrer à nos partners comment faire une démonstration du produit, comment avoir du succès. Donc, c'était vraiment quasiment une partie de la vente, puis l'autre partie, je dirais, c'était vraiment quasiment être un enseignant. Là. C'est de l'éducation. Mmh. Puis...
Parce que tu avais déjà ces partners-là, tu n'avais pas besoin de trouver des partners. Là. C'est comme des partners que tu avais déjà. Puis les autres, mettons, ils disaient, OK, ben là, cette semaine ou ce mois-ci, on a vendu. On a vendu à telle personne, peu importe. Puis là, on a certains problèmes. On a le produit, ça, on comprend pas exactement cette partie-là. On va demander à Phil, c'est quoi ce que lui peut nous dire pour que quand on va le revendre, ça va être plus facile.
C'est exactement ça.
Ça ressemble à ça.
Puis, c'est une autre situation pas mal similaire à ce que tu viens de décrire. C'est peut-être que là, hey, ils ont eu une opportunité qui est vraiment d'un gros size. C'est un deal qui parle gros d'argent.
Mm.
Mais eux autres, ils comprennent notre produit, mais ils vont jamais aussi tant le comprendre que nous autres le comprennent.
Right.
So, des fois, ils n'ont peut-être pas le choix de dire, hey, nous autres, on va amener Phil, qui connaît quand même vraiment bien le produit, sur nos meetings de vente avec ce client potentiel-là. Pour faire sûr que tout est bien expliqué. Puis, c'est de quoi que j'ai remarqué souvent dans mon poste, c'est que je suis juste habitué aux keywords. Tu sais, si le client potentiel dit un certain mot, ben, comme je sais quand est-ce rentrer avec quoi. Là. Puis, là, en même temps, ton partner apprend de ça. Ça, c'est vraiment tout un affaire de relation en fin de la journée. Là.
Puis c'est quel genre d'entreprise qui va avoir justement ces partners-là?
Souvent, ben dans mon cas, que si je connais, là, c'est souvent des startups. Ils vont vraiment souvent avoir n'importe quel produit, que ce soit un morceau de hardware ou de software, souvent, ils vont avoir des revendeurs. Là. Parce que comme je disais, c'est vraiment dur de juste scaler une business avec juste ta propre équipe de vente, puis juste faire du cold outreach. C'est quoi super difficile. So, pourquoi pas aller taper dans d'autres organisations qui ont déjà plein de relations établies. Là.
T'as-tu un exemple d'une compagnie qu'on connaît qui fait ça? Puis qu'on est au courant, mais comme on savait pas que ça... Mettons, là, t'as-tu comme... Je sais pas, là... Tu peux-tu dire que... Ouais. T'as bien que je suis dans le champ complètement, mais est-ce que Walmart, c'est un peu ça le principe? Est-ce que, mettons, tu sais, moi, je vends du pain à Gadoua, genre, puis que là, je veux vendre... du pain at large, mais je vais approcher Walmart, qu'eux font déjà de la vente de autre chose. Ouais. Là, c'est très. Là, c'est comme un magasin, puis c'est une autre entreprise qui font juste de la vente, genre.
Ouais.
Mais c'est le même principe ou c'est pas pareil?
C'est un petit peu. Ben, c'est similaire, en essence, là, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que là, c'est une grosse supply chain.
Ouais.
Quand tu penses à Walmart, il va y avoir des wholesalers, des distributeurs là-dedans. C'est comme. Oui, il y a des partnerships là-dedans avec Paul, mais de là, on dit que. Walmart est plus comme une entité, puis je pense que c'est comme eux autres qui ont un gros cercle de plein de partnerships pour différents produits qui s'assemblent autour. Comparé à nous autres, c'est pas mal plus simple que c'est nous autres, qu'est-ce qu'on appelle le vendor, qui est le produit final. Tu peux avoir ton partner dans le milieu. Puis des fois, même, pas de quoi que nous autres on fait tout de suite à notre compagnie, là, mais il y en a que des fois qui ont une partnership, puis après ça, il y a un wholesaler à Capol là-dedans que. C'est que peut-être nous autres, on n'a pas accès au wholesaler, mais notre partner a accès au wholesaler. C'est lui qui vend au wholesaler, qui vend en quantité. On ne fait pas ça tout de suite, là, mais.
OK, OK.
C'est la supply chain plus compliquée, là. Un petit peu comme Walmart, je suis sûr, ça doit être quoi.
Ça, c'est une des raisons pourquoi il y a des prix qui montent de même, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'étapes. Tu sais, on parle souvent des. Mais là, ça, je ne connais pas rien là-dedans, mais j'ai déjà entendu le fait que, tu sais, il y a un produit initial qui vient de la factory ou qui vient de qui se créer une telle place, puis il est vendu là, puis il est rendu au client.
C'est certain, tout le monde a se graisse. Tu sais, comme on dit. Tout le monde a se graisse la patte
un peu.
Ouais. So, c'est pour ça que je pense que même les dernières années, tu vois plus un trend de direct to consumer. Là.
OK.
Selon, on est en train de sortir du monde de. Tu nous en parlais depuis tantôt business to business, là. Mais là, business to customer, là, les individuels. T'as un gros trend de comme direct to consumer, là, que.
B2C, là.
Ouais, B2C. So, mettons que la compagnie qui invente le produit va manufacturer le produit puis vendre directement au consommateur. Tu sais, on a des marques de. Des matelas qui font ça, des. Je sais pas, plein du linge ou comme. Vraiment, essayer de couper peut-être. Toutes les autres parties dans la supply chain pour donner le prix le moins cher au consommateur.
Ouais. Puis là, je sais plus de clients. Puis...
C'est ça.
Costco, c'est ça qu'ils font?
Ouf, tu vas demander
des boîtes. Grosse question, hein?
Je pourrais pas. Non, non parce que ils ont plein de produits de. T'sais, c'est plein d'autres produits qu'ils vendent, de d'autres. Il n'y a pas. T'sais, peut-être qu'ils ont leur propre marque maison, mais encore là, les marques maison, c'est un autre sujet qu'on peut rentrer dedans, c'est pas vraiment des marques maison.
Ouais, les. Ah ouais? Non. Fait que mettons les comme compliments puis President's Choice, ça tu parles de?
Ouais, maison? T'sais, puis je veux pas dire ça comme un fait là, mais qu'est-ce que moi j'ai compris? C'est pas vraiment une marque. President's Choice en tant que comme je pense pas qu'il y a des places President's Choice qui package les produits là. Souvent c'est les mêmes manufactures qui font les produits pour les marques disons du stuff de qualité plus basse ou du surplus dans la même usine va être vendu à President's Choice qui va mettre leur branding. So, mettons, si tu me demandes, moi, qu'est-ce que j'ai de voir à l'épicerie, ça va être du President's Choice parce que j'ai pas besoin de payer plus cher pour le marketing.
Right, right. Tu vois tout le temps des biscuits comme, tu sais, mettons, Célébration, là.
Oui.
Ça, j'avais entendu ça, tu me diras si c'est ça que tu parles de, mais comme, tu sais, les biscuits Célébration à l'érable.
Ouais.
Tu sais, le typique, là, je sais qu'il y a une autre marque aussi qui fait ça, mais ça, c'en est, tu sais, c'est comme la qualité, tu goûtes un peu aussi la différence dans le biscuit un peu, tu sais. Puis après ça, juste à côté, t'as la même boîte, ben, presque avec un marketing différent, puis le même produit, pareil.
Ouais.
Mais il goûte un peu différent.
C'est peu.
Ça, c'est comme President's Choice ou c'est autre, là.
C'est exactement ça.
Ça vient de la même usine, la même compagnie. C'est juste que President's Choice achète ça puis vend ça moins cher.
Ouais.
Puis j'avais entendu une histoire aussi des batteries, là. Des. Ça, là.
Je vais le montrer. Ok, ouais, comme des batteries Energizer.
Je sais pas si ça va. Bref, en tout cas. Des batteries Energizer, ouais. Puis c'était comme. Il y avait un wrapping autour, puis c'était une compagnie qui vendait ça comme de eux autres, mettons Costco, là, je peux dire pas Costco, mais mettons, tu sais, un magasin, genre, qui vendait ça avec leur nom dessus. Puis là, t'enlevais le wrapping, puis c'était comme Energizer en dessous, là, tu sais.
Ouais.
C'est un peu le même principe, là.
Même principe, pas mal. Ça peut être le same que, et tout, comme, tu penses à une manufacture, comme, que deux, je sais pas, comme, disons qu'ils ont deux chiffres, un jour, puis soir, puis qu'ils changent la recette un petit peu le soir, juste pour dire, parce que c'est un petit peu différent, puis là, ce chiffre-là, fait les biscuits President's Choice, mettons.
Ouais, ouais. Ouais.
So,
ouais. Fait que c'est facile, ils ont déjà les. Fait que tu sais, pas juste une chose, mettons, ils n'ont pas besoin d'acheter des machines pour faire des biscuits, puis tout ça, ils font juste payer le biscuit, puis.
C'est ça.
Mais tu sais, qu'est-ce qui fait. Comment est-ce que. Mettons, dans cet exemple-là, je me permets de pousser là-dedans, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Là. Mettons, dans l'usine qui fait le biscuit de qualité, puis de moins bonne qualité, il va le vendre à President's Choice, mais il va le vendre. Au même prix, ou il va le vendre moins cher, ou comme President's Choice, il fait juste l'acheter au prix de l'usine, puis il le vendre moins cher. Puis l'usine le vend, mettons, sous leur nom, là, mettons, Célébration, ou whatever. Ouais. Là. Puis là, ils vont juste le vendre plus cher, vu que c'est de la meilleure qualité.
Pas nécessairement. C'est là que ça viendrait vraiment compliqué. Là, parce que, tu sais, tu penses, la plus grosse... Parce que c'est tout un affaire de négociation et tout, là. Puis de, souvent, cette quantité. Ça, mettons qu'on prendrait comme des biscuits Oreo, puis après ça, le no-name. Ben peut-être que Oreo peut peut-être payer moins cher parce qu'un meilleur négociateur... Peut-être qu'il achète en bien plus grosse quantité que biscuit President's Choice. Ça, je pense pas qu'on pourrait dire juste de même qu'il y a une différence nécessairement entre les deux produits.
Il y a juste plus de facteurs à considérer.
C'est
là.
Ça. C'est ça.
C'est en trop.
Ouais.
Là, on rentre dans les suppositions puis on va parler là-dedans. On rentre dans les conspiracy theories. Là. All right, puis là, c'est ça. Là, t'es encore changé de job.
Ouais, c'est là, je suis plus solutions architect. So...
Là, on dirait que t'as comme 15 ans d'expérience avec tout ça. Ouais. Ça s'est passé en 3 ans. Là.
Deux ans et demi, à peu près. Ouais, ça, je dirais, c'est ça le monde d'un startup. Il faut tout le temps être capable de, tu sais, trouver une nouvelle opportunité et être prêt au changement. Parce que les choses changent super vite. Tu sais, les demandes de la compagnie elle-même, demandes de tes clients, les affaires externes, comme l'économie apporte des changements. Mais là, à ce stade, je suis vraiment plus focus, comme que je parlais, sur nos partnerships. Donc, à mon nouveau titre, c'est Channel Partner Manager. Ça, je fais plus le job nécessairement du subject matter expert. Là. Je m'occupe vraiment.
La consultation avec les partners.
Ça, je m'occupe vraiment plus du cycle de vente. So, all
right.
Puis, je vais peut-être plus le décrire là, pour que le monde comprenne. Là. So, la partie difficile que je disais, comme créer de la pipeline, ça, c'est nos partners qui le font. Ils vont, avec leur relation ou peu importe quelle sorte de marketing qu'ils vont faire, vont avoir des opportunités. Dépendamment de la relation, peut-être qu'ils m'inclusent du début dans le sales cycle ou peu importe ce que d'autres sont confortables à m'inclure. Puis je m'occupe de faire sûr que ça va à travers les stages de discovery, comme apprendre à propos du client, pour pouvoir donner une démonstration qui est relevant à eux autres. Puis à partir de là, continuer à travers les stages, puis finalement amener ça à un closed one, que là on a gagné un deal. Puis c'est ça. Dans mon poste, j'ai plusieurs partners que je travaille avec. Pas mal sur une fréquence à chaque semaine. Là.
Mm-hmm.
C'est des revendeurs.
Là. Fait que tu vas basically juste faire de la vente avec l'équipe de vente.
Ouais, puis dépendamment, ça dépend tout des structures, de la relation avec ton partenaire. Ça, des fois, c'est peut-être ma job, dépendamment, peut être plus maintenir de la relation avec des vendeurs and then notre partner ou des sales managers, eux autres qui... Peut-être des fois, je parle jamais aux vendeurs. Peut-être ça chatte avec les managers qui ont une équipe, que là, l'information se passe de moi, qui maintient la relation entre mon organisation puis la leur. Donc, ça vraiment... C'est comme l'affaire, on parlait back de, tu sais, des biscuits tantôt. Ça dépend tout de la relation puis les négociations que tu as eues, là. Ça, chaque partner a différents besoins. Puis nous autres, comme compagnie, on n'est peut-être pas pareil à nos compétiteurs. Ça, chaque personne a comme leur value play, là. C'est fun.
Tout la job là-dedans? Ta job, c'est...
À base, maintenir la relation entre les deux, mettons notre organisation
et l'organisation,
puis le revendeur.
Ok, right. Fait que t'assures de garder ces partners-là, puis, ou peut-être, j'imagine, d'éliminer certains partners si tu vois que ça ne fonctionne pas, puis tu sais, il y aurait peut-être un clash de relation, ça peut arriver, j'imagine.
Ça arrive, ouais, c'est ça comme. Puis tu sais, surtout à ce il y a. T'sais, le monde change de job souvent. C'est des fois qu'il y a des partners qui vont avoir des nouveaux employés ou de la nouvelle direction plus haute qui changent d'idée, qui veulent amener des affaires dans une différente direction. So, oui, ça arrive que ça peut être d'un bord ou de l'autre qui mettent fin au partnership. Là. C'est de quoi qui arrive.
À ces niveaux-là, est-ce que ça arrive qu'il y a des enfantillages? C'est niaisé comme question, mais ça arrive-tu qu'il y a comme du monde qui sont comme, mettons, là, tu te parles avec un sales manager, puis là, t'es comme, tu sais, on a décidé d'arrêter, mettre fin à notre contrat ou mettre fin à notre relation pour telle ou telle raison ou peu importe, là. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des gens qui sont comme, ah, ben là, ça n'a pas de sens, puis ça arrive-tu ou?
Je pense que je suis mieux de pas parler de ça. Ouais, juste, parce que je pense qu'on va garder ça là pour ça, mais.
J'ai ma réponse.
Tu peux deviner un peu, ouais.
J'ai ma réponse.
Mais je dirais qu'on n'importe quoi. Il y a de l'enfantillage un petit peu partout en société.
Parce que
il y a moins en business. Mais ça existe. Là, ouais.
Parce que ta réponse était non, t'avais juste dit ah non, ça n'arrive pas.
Ouais.
Non. Fait que je comprends. intéressant ça.
Ouais.
Intéressant parce que non, moi je m'imagine tout le temps, tu sais, comme. Quand t'es professionnel, puis quand tu montes dans la hiérarchie du monde professionnel, si je peux dire ça de même, là, c'est très vague là, comme expression, mais tu vas bénéficier à être beaucoup plus mature, puis comprendre, puis rien prendre personnel, puis comprendre que des fois, t'sais. En tout cas, bref. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Est-ce que ton titre qui change tout le temps, c'est tu considères que tu montes dans la hiérarchie ou que c'est au même niveau?
Je dirais que, mettons... Ma première promotion, ça aurait été, comme dans le mot, ça dit une promotion. Je dirais mon dernier move, ça aurait été pas mal au même niveau. C'est juste que là, j'ai plus de upside. So là, je suis back à commission. Quand j'étais comme plus subject matter expert, comme je disais, solutions architect, tu sais, j'avais un salaire fixe. C'était un petit peu plus haut. Là, je baisse un peu, mais j'ai plein plus de potentiel au niveau que ça, je suis vendeur, ça, je fais de la commission.
Right.
C'est pas la vente, c'est un domaine que il y a gros d'upside tout le temps. Ça, c'est peu importe avec la compagnie, l'industrie, c'est pas mal plus toi qui contrôle comment l'argent t'amène en fin de la journée.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Ben, à cause de la commission.
C'est ça, commission. Ouais, tu fais de l'argent en compagnie, ben, toi et tout, tu vas en faire.
Es-tu motivant la commission?
Oui, très.
Très?
Ouais.
C'est-tu... Parce que... moi, je travaillais au gym avant. Mm-hmm. Je travaillais dans une S++, puis j'avais de la commission.
Ouais.
Je savais pas que je faisais de la vente.
OK.
On me l'a jamais dit. On m'a juste dit que t'étais à l'accueil, puis ça. Moi, je travaillais à l'accueil, mais j'étais entraîneur personnel, mais je travaillais à l'accueil aussi pour remplir mes heures, puis pour faire plus d'argent, tout simplement, tu sais. Puis j'avais une commission sur chaque fois que les gens achetaient comme un programme d'exercice ou autre, tu sais. Ouais. Moi, je voyais ça comme, tu sais, bon, ça donne s'ils achètent, tu sais.
Ouais.
J'avais pas catché, moi, là, que comme je pouvais juste me forcer. Mais c'est vrai qu'on avait pas beaucoup d'achalandage, puis c'était comme dur d'aller chercher plus de salaire avec ça. Anyway, parce que moi, je trouvais que ça me motivait pas tant.
Ouais.
Right? En fait, je voyais pas ça. J'étais comme, ben, écoute, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui te motive là-dedans? Ben, tu sais, c'est évident comme question, mais genre, tu sais, tu fais plus d'argent.
Ouais. Mais en dehors de l'argent et tout, l'argent, ça donne une grosse, mais je pense que c'est important d'être un vendeur éthique, là.
Ça, c'est vrai.
T'es pas là pour pousser un produit sur quelqu'un qui n'a pas besoin. Là.
Ouais.
So, c'est vraiment, tu sais, En dehors de l'argent, c'est amener le monde à travers d'un processus, qui est le processus de vente, puis à chaque fois faire du progrès avec eux autres, puis à la fin de la journée, savoir que tu vas leur aider à arranger un problème. Ben, quand tu arrives à la fin que tu as fini ton chapitre, est-ce que toi, que là, d'habitude, c'est disons, une fois que j'ai formé le deal, quelqu'un d'autre va prendre la relation à partir de là. Juste la base, comme c'est une satisfaction qui vient même sans penser à l'argent. T'as amené de quoi du début à la fin.
Il y a un closure, un sentiment de closure.
Puis je veux spécifier, il n'y a pas nécessairement, quand je parlais de maintenir des relations, il y a un closure au niveau de ma relation peut-être avec le client, mais la relation pour le client et l'organisation va continuer. Quelqu'un d'autre va continuer d'être là.
Mais c'est un peu comme quand, on s'en rend pas trop compte, mais quand tu vas quelque part et t'achètes quelque chose ou tu t'achètes un service ou tu sais, je sais pas, là, tu vas faire affaire à quelqu'un au début, puis mettons, t'achètes un char, là, ben ça arrive moins, là, mais tu vas avoir comme ton vendeur. Ou...
C'est ça.
Tu vas arriver des fois, tu vas changer de monde.
Tu vas aller à la personne de finance, tu vas financer, tu vas passer à travers les étapes.
je parlais de hiérarchie tantôt, là. Ça, on avait déjà parlé un petit peu de hiérarchie, pis ça, mais. Tu penses quoi, juste, je vais dire ça de vague de même, on va préciser peut-être, là, mais qu'est-ce que tu penses de la hiérarchie? Juste en général, la hiérarchie.
Je pense que c'est un petit peu essentiel parce que.
Pourquoi tu dis un petit peu essentiel? Parce que quand c'est essentiel ou ça ne l'est pas.
Je pense que t'as mal dit un peu. C'est essentiel.
Non, mais je veux pas pointer out que tu l'as mal dit. Il y a sûrement une raison pourquoi tu as dit un petit peu.
Ouais, parce que je sais que c'est quand même un sujet. C'est une hiérarchie en général que le monde.
C'est controversé, right?
C'est controversé, là. C'est pour ça que je pense que j'ai dit un petit peu parce que vraiment, exact. C'est essentiel. Puis
c'est ça que je pensais, mais je voulais te le dire.
C'est essentiel. À la fin de la journée, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que on est un petit peu des animaux. Puis je dis pas ça pour nous descendre, je pense que c'est juste la réalité. Non. On a eu. On a devenu des sentient beings, là. Ça veut dire qu'on a de la pensée comparé à d'autres animaux. Puis qu'on est, c'est plus qu'on est aware qu'on a des pensées. C'est ça la différence, la sentient. Avec ça en étant dit, les seules sociétés qui finissent par marcher, c'est eux autres qui ont une structure basée communautaire, puis ça c'est basé sur une hiérarchie. Sinon, quand t'as pas de hiérarchie, c'est chaos total.
Puis qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs qui disent que dans leurs entreprises, il n'y a pas de hiérarchie?
Ça marche. Mais ça devient de plus en plus difficile quand la compagnie grossit. C'est une bonne affaire. Le plus que tu peux, souvent, dépendamment de l'organisation, c'est pas méchant d'avoir le plus, comme on dit, flat que tu peux. Mais en fin de la journée, ça prend une hiérarchie parce que, mec, tu grossisses, tu peux pas avoir du monde de partout essayer de communiquer avec n'importe où ce qu'ils veulent. Faut qu'il y ait un petit peu une hiérarchie parce que sinon, c'est trop dur de focusser, là. Puis je pense pas que c'est pour être méchant, c'est juste c'est une évolution naturelle de l'organisation. Mais tu sais, il y a du monde qui sont assez innovateurs qui peuvent maintenir une relation, une hiérarchie flat le plus longtemps qu'ils peuvent.
Tu vois, ça je savais pas, je pensais pas que. Moi dans ma tête, c'était comme tu sais, la hiérarchie est importante, peu importe la grosseur de l'entreprise, tu sais. Fait que c'est intéressant que tu dises ça. T'as sûrement eu des jobs étudiants, toi, quand t'étais aux études, puis des petites jobines de. J'ai pas l'expertise là-dedans, mais je travaille là pour te dépanner. Là. J'ai deux bras, deux jambes, fait que je travaille là. Trouves-tu que la hiérarchie dans les entreprises, quand tu travailles dans à ce niveau-là, est trop présente, juste assez présente ou pas assez présente?
Comme des jobs, disons, mes expériences de job étudiant.
Exemple, tu travailles comme caissier au Shell, genre. Ou, tu sais, je sais pas, tu travailles comme commis Walmart, ou tu travailles comme. Tu sais, des jobs plus de. Qui sont accessibles à tout le monde avec une 10-11e année, là.
Ouais, c'est là que je trouve que les hiérarchies marchent super bien, souvent, là. Toutes mes expériences que j'ai eues en étant étudiant, il y avait tout le temps une hiérarchie claire, nette et précise. Je trouvais que ça fonctionnait bien, c'est juste, en étant un gérant ou un leader d'équipe, c'est juste d'être respectueux, puis tu sais, d'être friendly, pareil, mais ça prend une hiérarchie, là. Ça prend quelqu'un qui sait quelle sorte de projet qui se fait travailler là. Ça prend de l'autorité.
Je te demande ça parce que moi, je trouve que c'est vrai que c'est présent. Là. Je pense que je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas mis assez d'avant. Comme, en tout cas, personnellement, moi, ce que j'aurais aimé, là, c'est que ça aurait été mis plus d'avant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est drivé beaucoup par la hiérarchie, puis je trouve ça motivant de dire, comme, OK, aujourd'hui, je suis là, puis peut-être dans deux ans, je vais être rendu là, puis après ça, je vais être rendu là. Tu sais, c'est comme.
Je comprends.
Mais c'est pas le même angle que toi, t'avais pris. Ouais. Mettons-moi dans mes jobs étudiants, je trouvais pas que on me montrait que j'avais la possibilité de monter dans la hiérarchie, mettons. Il y avait une hiérarchie claire, j'avais un boss, j'avais un gars en-dessus de lui, au-dessus de lui, puis j'avais, tu sais, je la voyais, la hiérarchie, mais j'étais comme... J'aimerais ça qu'on me dise comme, hey, tu fais bien ça, tu sais, comme, continue même, puis dans cette voie-là, puis ça va, tu vas peut-être pouvoir monter, puis moi, ça m'aurait drivé à travailler, mais j'étais juste là, puis je filais comme un pion un peu plus, là.
Oui.
Fait que c'est pour ça que je te pose la question, là.
Non, OK, là, je comprends plus, c'est en lien avec ça. C'est vraiment plus un pathway pour passer à travers l'hiérarchie, là, comme individu. Pas nécessairement comment... moi, je pense que l'angle que je prenais plus, c'était pour savoir... Tu sais, voir comment que ça filait à être dans une hiérarchie, si je trouvais que ça fonctionnait bien, mais le tout se dit vraiment progresser. Mais je pense que la raison pourquoi que c'est pas mis clair d'avance, c'est qu'en cours de gros des emplois accessibles, il n'y a pas souvent des opportunités à grandir. Puis s'il y en a, ça veut pas dire nécessairement que le monde plus haut dans l'hiérarchie comprenne comment rendre le monde à évoluer. C'est dur à estimer tout, comment est-ce que leur organisation, compagnie va grandir, pouvoir estimer à ce que la personne peut grandir en avant, en dedans de l'organisation. C'est pour ça, je pense, quand on parle de choisir une carrière en général, de quoi qu'à prendre en considération, c'est la croissance de l'industrie que tu es dedans, puis la compagnie. Parce que quand tu es dans une place qui a gros de croissance, c'est plus facile pour le monde dans l'hiérarchie de pouvoir t'encourager puis t'amener à grossir, puis ils peuvent plus prédire comment que ça va se passer pour toi. Mais si on parle de des jobs plus accessibles que peut-être moi ou toi on a eu quand on était des étudiants, c'est une place stagnante qui reste pas mal pareil, qui a un petit peu de croissance, c'est vraiment plus dur pour eux autres de pouvoir investir dans leur monde.
Ouais, parce que si, j'imagine que si t'es dans un domaine où l'industrie est en croissance, tous les membres de la hiérarchie vont automatiquement monter dans la hiérarchie avec l'entreprise.
C'est ça.
Right? Tu sais, si mettons, je sais pas, j'ai... Juste la croissance d'entreprise fait en sorte que tu montes en hiérarchie. Moi, je pensais à mon ancien job comme physio, tu sais. Les autres, c'est une entreprise qui, je pense, a du potentiel de grossir parce que c'est vraiment une belle entreprise, puis ils ont une différente un peu mentalité. Puis c'était dans les débuts, c'est la deuxième succursale, puis tu sais, moi, j'étais comme dans les premiers physios. Ouais. On était juste 6-7 physios, tu sais, fait que... Moi, je voyais dans le futur, c'est ça qui m'avait attiré là-bas. J'étais comme, ah, peut-être que dans le futur, si je travaille là, je vais pouvoir monter. Fait que je me dis, si la clinique, elle, grossit, je vais être là du début. Fait que c'est assez plus facile pour moi de monter dans l'hiérarchie parce qu'il y en a qui vont rentrer en dessous de moi et ça va me pousser vers le haut. Ça. Fait que ça résume bien, je pense, que ce que tu expliquais là.
Puis t'as-tu des conversations peut-être avec les propriétaires?
J'ai lâché la job après 6 mois. Là.
Okay.
J'ai commencé en janvier puis j'ai fini en juin.
Ouais.
Parce que je voulais m'emmener recette. Là.
Ouais,
j'aimais la job là-bas, mais. Ouais, c'est ça. Et j'en ai parlé un peu à la fin. J'étais comme, tu sais, moi, mon but, c'était de monter un peu. Tu sais, en m'enlant, mon but, ça allait être de monter, mais j'aurais eu cette discussion-là si j'avais décidé de rester, tu sais. C'est sûr. Penses-tu, c'est bon que tu dises ça, penses-tu que c'est important en tant qu'employé d'avoir cette discussion-là avec un employeur?
Oui, c'est si tu sais que toi, t'amènes comme individu gros de. Tu sais, tu en rapportes gros à l'organisation, à la compagnie, c'est important d'avoir la discussion de. Pour que même que l'employeur sache que disons, tu veux investir toi-même comme individu dans la compagnie ton temps, puis que tu veux faire partie de leur plan futur. Là. C'est important comme employé de ne pas juste s'asseoir sur notre seuil, d'aller d'avant et dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que nous autres. Ça prend pas ça marche des deux bords. Puis surtout dans le monde qu'on est de suite, qu'il y a souvent un gros manque de main-d'œuvre. Je pense que. Un playing field est plus égal un peu. Là. C'est une discussion qui se fait des deux bords. Puis c'est très important d'être clair avec ton employeur de tes aspirations. Là. Puis je pense que si je me mets à la place de l'employeur, j'aimerais ça. J'aimerais savoir c'est qui les gens qui veulent vraiment croître à l'intérieur de la compagnie puis apporter de quoi à table.
Ah ben ouais, c'est sûr. Est-ce que t'es considéré parmi... il y a un titre pour ça en français, c'est cadre. Est-ce que c'est t'es considéré, je sais pas si c'est ce que je veux dire par cadre, gestionnaire comme ou, tu sais, un cadre c'est comme un membre qui fait partie du comité, un peu plus haut dans l'hiérarchie, là, qui va prendre des décisions, va prendre des décisions point dans l'entreprise,
tu sais, je
sais pas comment dire ça, là. Mettons t'as une usine, mais tu vas être une personne responsable d'une certaine partie de l'usine, mettons, tu ferais partie du cadre, là.
Ouais, non.
Est-ce que dans ton entreprise, t'es...
Je fais pas partie du cadre, je suis pas comme un gérant d'équipe.
C'est ça.
Mais au niveau d'un, tu sais, comme dans le contexte d'un startup, tu n'auras pas le choix de prendre des décisions. Puis des fois, plus que tu peux penser, il va y avoir quand même gros de décisions quand tu vas. Puis c'est ça un des bénéfices d'un startup.
Startup, ouais.
Tu vas prendre des décisions qui vont influencer la stratégie de la compagnie. Peut-être sans même tu réalises.
Right.
Mais avec le temps, ça devient plus clair. Tu as un impact direct. Puis tout le monde a un impact direct.
Hmm.
Ou la plupart. Puis que. Moi, je sais pas, je m'en gagne avec ça, mais ouais.
Ouais.
So, non, pour résumer, je fais pas partie du management team. Je sais pas nécessairement c'est quoi qui m'intéresse non plus.
Ah non?
Gérer une équipe. À un moment de suite, je pense que j'ai encore. Gros que je vais accomplir comme. On appelle ça un individual contributor, là, comme quelqu'un qui. Tu sais, qui fait son propre chemin, qui a sa propre job. Tu peux vraiment. Je pense que c'est ça, comme dans le groupe de carrière, il y a deux chemins. Quand tu progresses, tu vas avoir la gérance ou continuer comme un individu puis juste devenir de plus en plus performant pour l'organisation.
Right.
Ça prend les deux types. Puis tu peux trouver les deux types dans l'hiérarchie. Là.
Right.
Tu peux pas être un gérant d'équipe puis juste faire ta propre affaire, mais être quand même quelqu'un qui prend des décisions importantes.
Là. J'avais jamais pensé à ça.
Ça prend les deux.
J'avais jamais pensé à ça. C'est intéressant. Parce que moi, dans ma tête, là, quand tu montes dans la hiérarchie d'une entreprise, c'est direct dans la gestion. Tu sais, il y avait aucune autre option. Là, tu dis ça, c'est comme, ah oui, ça fait du sens parce que. Puis ça explique pourquoi il y a du monde qui vont travailler longtemps à des places.
Ouais.
Puis qui vont rester dans le même poste ou à peu près. Puis qui vont être comme satisfaits avec ça ou comme. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, ah, mais, tu sais, ça fait 20 ans que tu fais ça, tu te sens pas comme non accompli ou, tu sais, mais au contraire, non, t'es rendu vraiment bon. Puis tu. À la limite, tu fais, j'imagine, du mentorat avec les plus jeunes ou, tu sais, t'as un peu ce rôle-là de vétéran ou...
C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui peut gérer une équipe.
All right.
Tu sais? Puis je peux pas dire que je pense que j'aurais ces capacités-là puis j'ai l'intérêt à le faire un jour, mais... Puis je pense que t'as raison, tu sais, qu'il y a gros d'entreprises que peut-être la seule manière d'évoluer, c'est à travers de la gérance.
Mm.
Mais il y en a gros que d'autres que non. Comme je dis, il y a deux chemins, là.
Mm.
Parce que si on reste juste dans le monde de la vente... tu peux vendre à des grosses entreprises que ça va être des vendeurs d'expérience qui vont être là. Puis tu peux imaginer que d'autres ont eu une bonne carrière, ils ont plein de connaissances, puis ils font de l'argent. Puis souvent, les autres n'ont aucun intérêt à l'ingérence parce que ça serait un downgrade au niveau de l'argent, probablement.
Right.
So, il y a plusieurs chemins. Là.
Ouais, ça c'est intéressant. Je suis content que tu aies mentionné ça parce que je voyais pas ça même. Mais je savais que c'était possible, mais comme.
Ouais.
On dirait que je voyais pas ça comme chemin possible d'accomplissement. T'sais.
C'est ça.
On dirait que peut-être c'est juste parce que ça fait plus avec mes valeurs d'être dans la gestion, mm-hmm. d'avoir une équipe, je sais pas. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai aucune idée encore. On va voir avec l'expérience. On s'en parlera dans 25 ans. Cool, intéressant. Puis. Mais ça fait pas mal le tour, je pense, de ta job.
Pas mal, ouais. Non, je pense que c'est pas mal ça qu'on avait. C'est ça, on fait le tour.
Puis là, ben justement, t'as un peu répondu, mais c'est quoi ta vision pour ta job? Puis sans parler des autres discussions, des autres sujets de TIB puis gestion financière, ça, mais c'est quoi ton objectif long terme en termes de carrière?
Ouais. Au niveau de ma carrière day-to-day, je dirais que ça serait continuer à évoluer à travers de. D'être un vendeur. Je sais pas si je vais tout le temps rester vendeur typique. Là. Je suis un petit peu plus vendeur typique, comme quand je disais, en étant un channel partner manager. Mais si je serais pour dévier un peu, je retournerais peut-être dans le côté expert. J'aimerais vraiment ça être plus sur le côté technique. Mais peu importe, je pense que j'ai de la croissance que je peux faire en dedans de moi-même pour devenir meilleur en meilleur puis avancer ma carrière d'avant dans cette direction-là. Ça peut être un jour être comme un... Le terme serait comme un enterprise seller, là, quelqu'un qui vend aux plus grosses organisations. Puis c'est vraiment un processus complexe de vente. Là. Je pense que c'est là que j'aimerais me rendre.
Mm-hmm. Dans combien de temps?
C'est dur à dire. Ça peut se faire plus vite qu'on pense, mais mettons, si je peux me donner une timeline, peut-être dans 5 ans, j'aimerais être rendu là.
Ouais. Puis si on se fie au principe de psychologie humaine de base, rendu là, tu vas vouloir autre chose.
Ah, c'est certain.
Est-ce que tu vas vouloir, qu'est-ce que tu penses?
Ouais. Mais idéalement, à ce point-là, je pense que mon next step, c'est drôle, ça serait plus nécessairement si tant relié avec une carrière typique. Là. J'aimerais avoir eu peut-être d'autres investissements ou avoir placé mon argent à d'autres places que peut-être que c'est au niveau financier que ça m'amène, tu sais, de l'argent ou que ça soit investir dans mon bonheur et tout, que peut-être j'ai moins besoin de travailler fort, puis que ça me donne back du temps pour essayer de faire des activités que je veux. Là.
Ouais.
Je dirais que ça serait peut-être en dehors d'une carrière typique là, que je voudrais aller à partir de là.
Est-ce que... Je te joue des questions. Là.
Ouais.
Est-ce que l'argent, c'est un sujet tabou? Je te demanderai pas ton salaire.
Ouais.
Je te demanderai pas ton salaire. Mais à toi, ouais. Pour toi, est-ce que l'argent, c'est un sujet tabou?
Pour moi, non. Je suis pas mal transparent avec ça. Parce que je pense que plus qu'on en parle, plus que c'est facile d'apprendre des autres. Parler d'avant, je pense que comme société, si on est plus transparent que ça peut être, le mieux que ça va être. Donc, pour moi, c'est pas tabou. Je peux comprendre un petit peu quand ça vient des fois de parler de ton salaire. C'est pas tout le temps. Tu sais, je fais quand même avec du monde que je fais quand même assez confiance. Parce que des fois, ça peut être. Tu sais, le monde peut réagir différemment à des sujets de même. Là. Mais en général, je pense que ça devrait pas être tabou. Là.
Écoute, comme je te le demanderai pas, là. Je le dis parce que quand j'ai posé la question, j'ai commencé peut-être qu'il va penser que je
suis. Ouais, ouais.
Là, je sors ton salaire. Ouais. Moi, je fais plus d'argent que moi ou pas. Non, c'est pas ça. C'est plus. La question que je voulais te demander, c'est est-ce que tu aspires à avoir beaucoup d'argent?
Ouais, quand même. Oui, parce que je pense ça se rapporte pas nécessairement comme. Je suis pas quelqu'un qui dépense gros. J'ai pas vraiment plein d'affaires dans la tête que je veux m'acheter. C'est pas vraiment au niveau matériel, mais c'est vraiment pour. C'est la sécurité que ça amènerait à ma famille future. Si je veux aller en vacances ou juste, comme je disais peut-être à un certain point, pas besoin de stresser, c'est que du jour au lendemain, la compagnie que je travaille pour m'envoie à la maison pour peu importe la raison. Que je savais que j'ai de quoi qui me back en arrière et que je suis confortable. Je pense pas que c'est nécessairement. J'ai déjà entendu ça. Je pense pas que c'est mauvais de vouloir de l'argent. Je pense pas que c'est une mauvaise affaire.
T'en as-tu parlé avec des proches que tu voulais faire de l'argent dans la vie?
Ouais. Puis c'est compris, je dirais, mais il y en a qui pensent que c'est comme. Je dirais, c'est pas tant vu comme positif, dire que tu. C'est pour ça que tu essaies, puis je pense que ça vaut pas la peine d'en parler gros, c'est plus tes actions que tu fais, mais en même temps, c'est pas tout le temps bien perçu, mais qui est bizarre un peu à penser, parce que c'est une bonne affaire à la fin de la journée.
Right. 100% d'accord avec toi, puis j'ai la même, même expérience par rapport à ça. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas être millionnaire?
Ouf, ça c'est un gros statement. Mais.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'écoute Fred Plourde qui voulait que je lui donne des clickbait, là, puis des grosses lines, des gros liners. Là.
Ouais, ouais, c'est ça. mais je dirais que oui, là. Je pense que. C'est peut-être tout le monde dans la maison qui écoute, comme. T'es constant avec ça, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens que. Je parle pas de plusieurs millions, mais un million, c'est pas nécessairement si dur que ça. Comme.
Surtout aujourd'hui que la valeur de l'argent descend, fait qu'un million, c'est plus comme c'était.
C'est plus comme c'était premièrement. Ouais, ouais. Ça ira pas aussi loin, mais c'est quand même un gros montant. Mais je dirais, tu sais, si t'es capable de placer un certain montant de côté à chaque mois, puis de l'investir dans un index fund, sans trop rentrer des détails de ça, mais pas faire votre recherche, là, mais comme un index fund assez général qui couvre le marché mondial.
L'SP 500, genre?
Ouais, comme l'SP 500, ça serait un bon exemple. Puis, tu sais, mettons 200 à 500 par mois, puis plus que tu peux vraiment mettre de côté, puis juste laisser ça faire. Pas y toucher, pas le regarder, juste mettre ton argent dedans jusqu'à temps que tu sois proche de la retraite, tu vas te rendre au million. À part ce qui aurait un événement qu'on n'aurait jamais vu dans l'histoire, parce que d'habitude, si t'es juste patient, ça se recouvre tout, puis ça va d'avant. C'est pas de quoi d'habitude, historiquement pendant. Ouais,
parce que même la pandémie, ça n'a pas fait assez un gros dent pour dire que tu n'auras pas ton million rendu à la retraite. Là.
Ça va, c'est comme si c'était jeune, ça va se recouvrir vraiment vite. Puis même si tu aurais été plus âgé, tu serais plus proche de la retraite, idéalement, tu aurais ajusté ton portfolio pour prendre ça en conséquence. Les événements de même peuvent arriver. So, tu aurais tourné ton investissement de direction un peu pour vu que tu es plus âgé. Mais quand on est jeune, il n'y a pas de stress. Là. Disons que ça descend de 30-40%. Pourvu que tu aies un broad index fund, panique pas et continue à mettre de l'argent dedans.
Right, right. Sauve rien en tout cas.
Sauve rien, non.
Ouais,
panique pas.
Ça pire
pas.
À
faire.
Ouais. Intéressant, intéressant. Si tu veux, parler d'argent, on peut parler de ton deuxième income. Deuxième source of income, là. Ou source de revenus, là. Qui est eBay.
Ouais, c'est un petit peu plus le fun. Puis je vais mettre un prétexte que c'est pas grand argent, là. C'est plus de quoi que moi et mon père, on a commencé peut-être 2 ans passés, je dirais. Mais c'est plus vraiment une manière pour moi. Pas tout est relié à l'argent. Oui, ça apporte de l'argent, mais c'est plus le temps que je passe avec comme père et fils, qu'on développe de quoi ensemble. Ouais. Ça a tout commencé, j'étais jeune. Mon père a obtenu un background plus nerdy, même avant que ça soit populaire, comme les vues de super-héros, des comics, il a été passionné par ça.
Ouais.
Donc. C'est ça, on avait des collections de figurines quand j'étais jeune. J'ai pas mal tout le temps collectionné ça, probablement jusqu'à l'âge de comme 18. C'est mon père a gros de comics, on a gros de différents systèmes qui se rattachent à des choses de même. Ça, c'est Marvel, DC, Star Wars. Le problème avec n'importe quelle collection, c'est que tu viens à un point que tu en as bien trop, puis t'as mis gros d'argent dedans, puis t'es comme, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que, tu sais, mettons.
Ça prend la place. Puis...
Ça prend la place, puis moi, je pense que pour une freak raison que. Mon père, on décéderait demain, là. Ça serait un burden sur toute la famille, là. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ce stuff-là?
Ouais.
Puis à la fin de la journée, c'est rien du matériel qui n'est pas si important que ça. Donc, on a commencé à vendre notre collection. On a réalisé que gros des systèmes qu'on avait achetés ou trouvés à des années ont pris gros de valeur, puis que ça valait de l'argent. Donc, on fait du profit. Puis, on essaye quand même de, avec toute la connaissance qu'on a acquérie, dans ce domaine-là, on est pas mal bon à spotter à ce stade les items qui vont prendre la valeur.
Okay.
Si on en ajoute d'autres là, continuellement. Là. Les items qu'on peut avoir en sale, peut-être, qu'on sait qu'il va se revendre dans 5 ans pour double ou triple prix.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, on les store, puis on les revend. Ça fait une petite sideline.
Ouais, c'est comme un sideline qui rajoute un petit peu de revenus, puis quand t'as fait passer du bon temps avec ton père.
C'est ça.
Qui est le plus important.
Qui est le plus important dans l'équation. Là.
Puis c'est ça, fait que c'est un roulement qui. C'est pas quelque chose que. De ce que je comprends, c'est pas quelque chose qui va nécessairement avoir une croissance. Là. C'est pas quelque chose que vous. C'est pas votre objectif non plus d'avoir une croissance avec ça, c'est plus.
Non, parce que j'ai déjà pensé un peu, mais ça serait juste un petit peu plus complexe. Peut-être ça serait faisable, mais en tout cas, j'ai pas plus d'intérêt à pousser là-dedans, là, comme essayer de trouver un distributeur que je pourrais aller acheter en quantité. Mettons juste si je garde ça simple et je parle de figurines. Ce serait possible, mais on dirait que je pense pas que ça serait hyper profitable. C'est déjà un espace assez crowdé. Puis on ne vit pas dans la meilleure place, tu sais, comme en étant au Nouveau-Brunswick, on ne vit pas dans la meilleure place non plus pour faire ça.
Même si c'est sur Internet?
Ouais, ça rajoute un petit peu de complexité parce que souvent les meilleurs deals se passent aux États-Unis.
Hmm.
Puis là, pour shipper à travers du Canada, premièrement, Canada Post, c'est super dispendieux. Ouais, comparé à ce qu'on va juste le bord à, mettons, Madawaska, ben, c'est à plein moins cher pour poster de quoi, malgré que ça prend des permis spéciaux. Là. Juste pour dire que notre location n'est pas idéale pour ça. Il y aurait peut-être des workarounds, mais c'est pour ça qu'on garde juste ça, pour de quoi de plaisant, puis de quoi qu'on peut parler de, puis c'est boire une bière en même temps.
C'est ça, c'est cool ça.
Ouais.
Puis là, ça, faites-vous genre de la comptabilité de tout ça, puis vous checkez l'argent, puis vous comptez ça tout égal, puis...
Ouais, ça, c'est ma job un peu. Là. Ça, c'est plus... Là, mon intérêt pour la comptabilité, que ça c'est des finances personnelles, que ça c'est notre eBay... J'aime bien ça de tracker des affaires dans les spreadsheets. C'est nerd, là, mais comme me lever mon samedi matin, me faire un bon café, un espresso ou quoi, puis mettre là pour travailler sur mes spreadsheets. So, ouais, moi, je m'occupe de sa comptabilité. Des fois, mettre les listings sur eBay, c'est pas mal plus mon côté. Comparé à mon père, c'est plus faire la recherche pour pricer les items, que je peux faire et tout, mais lui, enjoy ça. Puis, il s'occupe souvent de... Tu sais, mettons, à la Canada Post, puis poster stuff, là.
T'as-tu une bonne relation avec ton père?
Ouais, super. Comme ça, c'est de quoi... ma famille est pas mal tight-knit, que ça c'est avec comme ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. On est vraiment, vraiment proches. Puis ouais, ça fait du bien, parce qu'on dirait, en vieillissant, tu sais, la relation change, je veux pas. Si je prends l'exemple de mon père, la dynamique change. Puis des fois, ça vient un petit peu difficile pour... On dirait qu'il y a un petit peu de nostalgie qui rentre en jeu de la dynamique qu'on avait quand j'étais plus jeune, que je m'ennuie de. Mais on dirait avec en ayant de quoi de même en commun, ça l'aide.
Ça aide à garder un peu le...
Ça garde le bond un petit peu plus fort. Là.
Ouais, ouais. C'est important quand même d'avoir quelque chose de qui te garde aller aussi avec tes proches.
Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est quoi que mon père fait vraiment bien. Là, comme il essaie tout le temps de... Ça, c'est avec n'importe quel des enfants, avoir de quoi en commun avec eux autres qui peuvent... Même en vieillissant, qu'ils vont garder dans commun. Là.
Fait, même si, tu dirais-tu que ton père, il va dériver un peu de ses propres intérêts, puis favoriser vos intérêts?
Non, pas vraiment. Non, ça reste, ça donne juste qu'on a des intérêts en commun, qui n'ont pas si tant que ça non plus, là, mais je dis c'est fun qu'il n'a. Mais non, il n'est pas le genre trop à dévier pour essayer de quoi que toi t'es intéressé dedans. Ouais, pour être honnête.
Mais tu sais, en même temps, il reste humain. Fait que dans le sens, je sais pas pour toi, mais moi, c'est rare que je vais dévier mes propres intérêts pour dire. Tu sais, peut-être juste ma blonde que je vais faire l'effort de des fois des intérêts, puis mettons, me laver le visage, moi, je m'en fous un peu, là.
Ouais.
Je comprends que c'est important, là.
Ouais.
Je m'en fous, là.
Ouais.
Tu sais, mais C'est ça. Là, j'essaie de m'intéresser un petit peu quand, au moins quand on en parle, j'essaie d'écouter.
C'est ça.
Même si je pourrais faire plus d'efforts, I guess, mais. Mais tu sais, autre que cette personne-là, c'est rare que je vais genre dévier mes intérêts. Fait que je me dis juste, mon point, c'est que je comprends que ton père, même si t'es son fils,
ouais.
Ça reste que c'est pas tout le temps trippant de changer tes intérêts pour quelqu'un. T'sais.
Non, c'est complètement humain, là, comme tu disais. Puis je pense on vient plus en plus de même en vieillissant et tout. Là. Tu sais pas mal qu'est-ce que t'aimes après un bout et qu'est-ce qui t'intéressera.
Ça vraiment. Change plus, là.
Ça change plus. Malgré que tout, j'ai rencontré des gens qui sont plus âgés. Puis qu'ils ont resté pas mal ouverts d'esprit, là. Puis qu'ils se trouvent encore des nouveaux intérêts. Ça, je pense, ça revient un petit peu à l'individu, là. T'sais, d'avoir l'esprit ouvert, juste en général, là.
Absolument. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir l'esprit ouvert, absolument. C'est ça, fait que, dans le fond, là, c'est juste un sideline. Puis il n'y a pas de futur autre que on garde ça aller, puis on fait un petit sideline avec. Le pire, puis regarde,
c'est plus fun.
Ouais, c'est cool, ça. Puis c'est fun parce que c'est un sideline qui rapporte un petit quelque chose. Ouais. C'est quand même un plus, tu sais.
C'est ça.
Puis j'imagine que le but, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est plus, comme tu dis, passer du temps, fait, mais c'est quand même un plus de dire, OK, ben écoute, si ça me fait un petit 100$ une fois de temps en temps, une semaine d'essai, je fais 100$, la semaine, là, je fais un petit 100$. Là,
c'est
ben,
ça.
Je dis ça de même, là, mais tu sais, c'est le fun. Non?
Ça se prend bien.
On va me payer un lunch au resto, puis
c'est ça.
C'est quelque chose de même. Là. On va aller au Portugal.
Ouais, c'est un petit projet qu'on a parlé de tantôt.
Puis c'est ça, maintenant on parlait de ta comptabilité avec les figurines tout ça. Tu tripes sur la gestion financière, right?
Ouais, c'est, je pense depuis, probablement j'ai commencé à m'intéresser dans le sujet probablement à la fin de du secondaire. Puis tu sais, je vais mettre ça au clair que t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent de ramasser pour trouver ça intéressant. Mais je pense que c'est plus les habitudes que tu vas prendre qui vont t'amener. C'est un mindset qu'il faut que tu développes, je pense, pour être successful. Avoir du succès dans la vie. Puis, à cause de ça, tu fais juste plus sécuritaire. Quand tu comprends la base, la finance personnelle, puis comment, quoi faire avec ton argent, puis avoir de l'argent de côté pour mettre les opportunités se présentent dans ta vie, je pense mentalement, tu vas filer à plein plus confortable. Parce que, tu sais, je pense qu'il y avait des recherches là-dessus qui. Le monde qui ont plus d'argent en général, il y a un certain montant là, puis ça doit changer à ce que le coût de la vie monte en flèche là. Mais quand j'avais vu la recherche, c'était comme à partir de tu fais comme 80 000 US, à partir de là, ça change pas vraiment ta qualité de vie drastiquement. Comparé en bas de ça, t'as bien plus de chances de mourir jeune si t'as pas gros d'argent. Parce que stress financier, c'est un des plus gros stress que le monde a en général.
Ouais.
Puis stress en général. Je suis pas docteur là, ça j'en parlerai pas longtemps, mais ça release du cortisol.
Ouais.
Cortisol, c'est comme un flight or response, genre d'hormone. Ça, c'est pas bon d'avoir ça long terme. C'est correct des short bursts de cortisol. Ça, quelqu'un qui est vraiment disons, un executive d'une grosse compagnie peut avoir des short stints pour agir.
Ouais.
Mais long terme, c'est pas un individu qui a du cortisol qui se fait releaser constamment. Donc, c'est une autre bonne raison de regarder la base de la finance personnelle. C'est pour ton mental, peut-être même pour ta santé. C'est pas une méchante affaire à comprendre.
J'aimerais que tu nous expliques un peu plus le processus au niveau biochimique là, du cortisol, puis l'effet qu'il y a sur les organes, puis la santé en général.
Ouais, je pense que c'est là que ça va s'arrêter. c'est pas le domaine. Mais... Hey, mes cours de bio, là, ouf.
Ouais, non, mais.
On passait par la peau des fesses.
Ah oui, c'est vrai?
Non, non, non. Ben, j'ai dit, mes notes, t'es correct, mais j'ai dit pour.
Les
comme
intérêts.
Je dormais, l'intérêt.
Point de vue intérêt, ouais, ouais.
Point de vue intérêt, je dormais.
Ah ouais, bio. Cours, puis... t'aurais pas été physiothérapeute dans la vie, toi.
Ah, jamais.
Ouais.
Puis y a rien qui. Tu sais, Anne Mobitoué, là.
Ouais. Malgré
que,
ouais, bon juste Anne Mobitoué, là. Y a personne qui écoute ça.
Y a rien qui me fait que je trouve plus plate que comme. Tu sais, on parlait d'intérêt que le monde t'apporte.
Ouais.
Quand ça tourne dans la biologie,
ah,
comme
ouais.
Les affaires de même, là, comme.
Ah, ouais.
J'ai envie de tourner dans l'autre direction, là.
Qu'est-ce que je trouve nice, là, de la bio, là? Ben, c'est pour ça que je suis physio et tout, là. C'est le point de vue mécanique, là. Tu sais, comme l'engineering, puis là. Moi, j'avais un cours de biomécanique. Mm-hmm. Le prof était à chier, mais le cours était vraiment intéressant, tu sais. Fait que, tu sais, les bras de levier, puis le moment de force, tout ça, c'est ça partout dans ton corps, tu sais. T'as des muscles, t'as un tendon qui t'attache ici, qui va tirer sur ton os pour que ça fasse ça. Si le tendon t'attachait là, ben, ça serait bien plus facile, mais ça marche pas parce que, tu sais, tu peux pas avoir un tendon qui va de même, ça serait
bien.
Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme, faut tout t'apprendre ça, là. Mais ça, on s'entend, c'est un cours sur 6 ans d'études, 6 ans et demi d'études, là. Puis c'est ça, mais c'est ça mon day-to-day, par exemple. Fait que ça, c'est ça que je tournais, c'est la physio versus, mettons, la médecine, qui c'est plus comme, c'est des molécules de ci, de ça, de tu sais pas trop, de. Là, c'est tout le temps logique, mais ça devient tellement poussé à un moment donné que c'est qu'il se met comme, c'est extrêmement subjectif, là. C'est extrêmement comme une théorie, là, de, ouais. Ah, ça va faire ça, puis tu peux pas vraiment prédire qu'est-ce que c'est. Fait que ça, cette partie-là, moi, j'adore moins, puis c'est pour ça que je suis pas là-dedans aussi, là, tu sais.
Ça, t'aimes plus le côté concret, physique. Physique, là, logique, ça s'explique, là.
Physique, ouais. Mettons les cours de physique, moi, je trippais, là.
Ouais, c'est ça.
Physique, c'est the best.
Ouais.
Puis bio, ben c'est comme, tu vois un peu le lien avec ça, tu sais. Le système musculo-squelettique, c'est la bio puis de la physique ensemble.
Ouais.
Puis un peu de chimie, mais tu sais, mais ça fait juste du sens de, tu sais, si tu veux avoir moins de force sur telle partie du corps ou moins de tension sur tel tissu, sur tel, ben là, tu vas faire changer un peu telle position, tu sais, bref. Fait que, faut que tu vois ça en 3D. Puis moi, j'ai beaucoup ça, là, je suis capable de voir les... Je parlais, petit parenthèse, je parlais avec un de mes chums physio qui est physio aujourd'hui, là, puis on parlait de notre capacité à voir en 3D, là, puis d'imaginer, là, puis moi, j'ai quand même ça, là, de ce que je comprends. Moi, je pensais que tout le monde était de même, mais lui, on parlait, puis il était comme, moi, je vois pas les ligaments, je vois pas les tendons, je vois pas les os, puis je suis comme, ben, moi, j'allais dans ma tête, comme, je sais où ça passe, puis je comprends le glissement de tout, puis c'est facile pour moi, tu sais, fait que c'est pour ça que j'étais plus, comme, aligné là-dedans, t'sais.
C'est drôle que tu dis ça, je vais peut-être dévier le sujet un peu, mais ça se rattache à ça. De quoi j'ai commencé dans les derniers 6 mois, c'est du Brazilian Jiu-Jitsu.
Oui, oui.
Ben, je m'enligne avec ça, c'est qu'on a un physiothérapeute qui est un de nos coachs.
Ouais, je sais.
Puis,
Il est coach, c'est
ça? Ben, il est comme, tu sais, on a comme deux blue, purple belt, puis on a un qui est, lui, il est blue belt.
OK.
So, il donne gros de classe des sessions que c'est lui qui run. Puis, tu vois que lui, il pense en 3D.
Ouais.
Comme moi, c'est 100% sûr que c'est le même qui voit ça, parce qu'on dirait... Il voit une move, comme il regarde une vidéo, puis on dirait qu'il l'a catché tout de suite. Là. Parce que lui, il a pu tout simuler dans sa tête. Ouais. Puis là, il arrive, puis il les réplique comme il nous le montre. Lui, c'est clair qu'il voit ça d'une manière trois-dimensionnelle.
En plus, il est physio, puis quand t'es en physio, puis t'enseignes à du monde à comment bouger, t'es capable de bouger ton corps, là, c'est fou. Parce que tu fais tous les exercices, tu fais tout d'une certaine façon, là, tu sais. Puis comme je vois ça avec les clients, la capacité, puis là, c'est pas pour me vanter, là, mais la capacité que j'ai à bouger mon corps dans certaines façons, là, comme je suis tellement conscient de tous les petits mouvements de chaque petite articulation, parce que je sais exactement comment c'est fait. Ça, c'est trippant, là. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans... Je vais avoir toute ma vie, puis ça, je trouve ça fou, là. Comme j'ai une conscience corporelle hors de l'ordinaire, là. Parce que je l'ai... Ben,
tu sais...
Parmi les physios, c'est normal, là, mais je veux dire, dans la population générale... C'est juste insane, là. Comme je peux penser à toutes les petites articulations, puis comme voir comment ça bouge, puis c'est quoi ce qui glisse, puis c'est quoi ce qui... Bon, c'est sûr qu'il y a des choses que je sais pas, là, mais... C'est ça. Je trouve ça vraiment trippant de dire, OK, on fait telle affaire, telle affaire, puis... Mais c'est ça aussi, nous, on a des cours de ça aussi, là. C'est comme, OK, t'as regardé la vidéo, puis là, faut que t'analyses, c'est quoi le glissement, c'est quoi le... Anyway, fait que c'est vraiment intéressant, ça, c'est la partie que j'aime le plus. T'as-tu un message à envoyer aux gens qui voudraient faire ce que tu fais dans la vie, ou dans ton domaine, tu sais, si on parle de vente, ou... Mettons, un jeune qui a 17 ans, là, puis comment sais-tu, finalement? J'irais peut-être pas ça.
Je pense que c'est de mettre dans des positions, premièrement, comme. Ça tourne un petit peu au niveau de ton approche dans la vie. C'est... Imagine-toi un outcome, tu sais, un résultat. Après ça, fais-toi un plan dans ta tête de comment tu vas te rendre. Ça n'a pas besoin d'être concret, mais mettons que tu dis, OK, moi, ça m'intéresse le monde de la vente ou dans l'industrie où je travaille et que ça c'est la technologie ou la cybersécurité. Rencontre du monde qui sont dans ces industries-là, dans ces domaines-là. C'est poser des questions, essayer de comprendre c'est quoi leur day-to-day. Tu vas quand même comprendre assez vite, je pense, si tu mets ça en action pour de vrai, premièrement, si c'est un fit pour toi. Encore là, c'est correct que ça ne l'est pas. Tu vas te faire un autre plan. Tu vas peut-être te trouver assez de quoi d'autre, faire une hypothèse. Moi, je pense, j'aimerais cet outcome-là. Tu vas essayer. Mais rencontrer des gens, puis après ça, trouver des vraies expériences de vie. Si tu penses aller en vente, peut-être tu peux te trouver un emploi que, tu sais, comme tu disais, peut-être que tu travailles dans un gym puis tu vends des programmes, ou que peut-être tu vends des téléphones cellulaires, comme tu sais, juste avoir de l'expérience de parler à toutes sortes de gens. Je pense que je peux expander là-dessus, là. Je sais que si t'en as fait de mindset, hein, comme moi je pense. Je suis pas trop organisé dans mes. Mais juste, si tu vas aller en vente, apprends à parler à toutes sortes de monde. C'est de base. Puis moi, j'ai appris ça en travaillant au McDo. Puis encore là, ça sonne banal, mais c'est un affaire de mindset. Tu peux aller travailler dans un McDo peut-être, puis être très négatif, puis pas sortir grand-chose de l'expérience. Ou tu peux y aller comme moi, puis mon frère, puis ma soeur qu'on était. On a tous été travailler au McDo. On a tous vraiment grandi à travers de cette expérience-là. Puis je pense, si je pourrais dire un emploi dans ma vie qui a changé mon parcours, ça aurait été travailler au McDo.
Oui, hein?
Parce que j'ai appris à gérer plein de situations, bonnes, mauvaises, différents gens que... C'était des affaires que j'utilise à cette heure, jour à jour. Sortir de ta comfort zone, trouver des role models, puis pas avoir peur d'essayer, puis si ça marche pas, trouve de quoi.
Right. 100% d'accord. Ça pourrait, pas être, ça pourrait être pas plus en ligne avec mon mindset aussi.
Ouais.
Ouais, 100%. T'as-tu des ressources ou des choses à donner, mettons? Surtout pour moi, là.
OK.
T'as-tu des choses, mettons, tu veux... par rapport à ton domaine plus, parce que c'est ce que tu connais, là, tu sais. Si on parle de vente, pas que la vente, ça m'intéresse tant que ça, là, mais... Ouais. En fait, je sais pas si ça m'intéresse vraiment, mais... Tu sais, des ressources ou des affaires qui sont accessibles ou... Puis pas un, là, je parle pas d'un livre ou quelque chose de vraiment ouais. approfondi, mais juste une ressource de base pour dire, je sais même pas si ça m'intéresse, peut-être, je veux juste voir si c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, un petit livre ou un site internet, un YouTuber.
Ouais. Chérie Negro, j'aime pas souvent mentionner
des noms.
Des noms comme des influencers pis ça, parce que c'est tout le temps dur à décider c'est comment avec ça qu'ils ont vraiment fait, là, comment ils ont vraiment mis en action. Malgré si tu peux en prendre des bons tidbits que tu peux considérer pis essayer. Mais juste en général, parce qu'il faut pas oublier qu'une job de vente ou peu importe, je prends juste, tu sais, comme je travaille dans une compagnie de technologie, il y a plein d'autres rôles que j'acquéris des connaissances que je pourrais exécuter dedans puis être bon. Ben, je m'aligne avec ça. C'est un livre que je peux recommander à tout le monde, c'est par Dale Carnegie ou Carnegie, How to Win and Influence People. Ça sonne un petit peu trompeur, là. C'est pas un manipulateur ou rien, mais je pense que c'est inc. Ça parle de base, c'est comment être un bon humain puis comment interagir avec les gens. Commence là, si tu peux vraiment venir au point que tu aimes interagir avec les gens puis aider les gens puis être de service à ta communauté, je pense que ce livre-là parle un petit peu de ça, ce serait un bon début pour tout le monde. Puis si on change de sujet un peu, comme au niveau de la finance personnelle, ça je trouve que c'est vraiment pas si compliqué que ça, le monde on peut, mais sur YouTube, tu peux trouver plein de gens, même canadiens, qui parlent du sujet, puis c'est pas mal des affaires de base, faut pas avoir peur, là, ça. Je pense, dans n'importe quel sujet, si t'es vraiment intéressé, tu vas trouver des solutions. Mais définitivement, le livre que j'ai mentionné là, je pense, je le recommande à tout le monde.
100%. Moi, je l'ai lu. Là.
Ouais.
Oh non, on s'en avait déjà parlé.
Ouais, c'est ça.
Game Changer, moi, ça a changé mon mindset, effroyable. En physio, ça a changé ma job. Là.
Ouais.
C'est fou. Parce qu'il y en a fait qui dit là-dedans. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que ce livre-là est tellement insane. Il faut le lire, c'est sûr, parce que c'est bien dit, c'est bien expliqué. Puis, dans le fond, moi, j'ai changé ma job un peu. Là. T'sais, quand je fais des évaluations en physio, il faut que j'apprenne à. C'est quoi le problème? Faut qu'on trouve c'est quoi le problème, puis après ça on va le traiter, tu sais. Mais ça commence par un gros questionnaire de près d'une demi-heure, de c'est quoi qui t'est arrivé, c'est quoi qui te fait mal, bref. Puis j'ai commencé à passer plus de temps parce que les gens nous disent, mais des fois il y a des patients qui vont leur parler de, je sais pas, leur job pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis ils vont se mettre à parler, puis là faut que t'écoutes parce que le temps presse.
Ouais.
Puis avec l'expérience, ben j'ai pas beaucoup d'expérience, mais avec l'expérience que j'ai, je trouve que c'est pas vrai, puis on devrait faire le contraire. On devrait embarquer pour la relation thérapeutique, c'est très important, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça depuis que j'ai lu ce livre-là un peu plus, puis mettons, le monde va parler de le job, puis tu vois que les yeux, là, comme ça s'illumine, puis ils ont eu des belles expériences, puis ils trouvent ça nice. Fait que je pose des questions, puis mon lien thérapeutique, là, il est comme 100 fois meilleur, puis j'ai plus de... Bref. Parce que ce que ça dit dans le livre, c'est de s'intéresser aux autres.
C'est ça.
Tu sais, ça, c'est un des points qui était vraiment intéressant, j'en ai parlé dans un podcast et tout, là. Mais ça, j'ai appliqué ça en physio, puis ça fait une grosse différence. Fait que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis pour le livre. Puis pour la gestion financière, qu'est-ce que tu fais? Si, parce que là, tu dis, si ça t'intéresse, tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Absolument, c'est YouTube, il y a tout là-dessus. Qu'est-ce que tu fais si ça t'intéresse pas, mais tu sais que c'est important? Parce que moi, c'est un peu ça, la gestion financière, là.
Ouais.
Je le fais, puis je trouve ça satisfaisant. Mais ça m'intéresse pas autant que toi, je pense.
Ouais.
Qu'est-ce que je fais? Parce que je sais que c'est vraiment important, puis ça me prend ça, puis c'est très, très important. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je check quoi, je...
Ouais, c'est comme je dis, quand je dis c'est pas compliqué, là, c'est vraiment pas, là.
Ok, il faut juste dire, que je check, là... puis ça, je vais faire comme, ah, ok, c'est pas
non, compliqué. Mais je peux le dire juste tout de suite, comme...
c'est une ligne de trois...
C'est, ça va être juste une couple de lignes, là. Ça va être comme, premièrement, fais-toi un coussin, je veux dire, comme un petit montant que tu mets de côté, d'habitude, c'est peut-être, mettons, commence par 3 mois, tu sais, que de dépenses que tu mets d'un compte, un high savings. Ça, trouve-toi un compte qui rapporte un petit peu plus d'intérêt. Encore là, Google search away. Mets de l'argent là-dedans. Après, à partir de là, une fois que t'as ton fund, si jamais quoi de mal qui arrive, parce qu'on sait jamais dans la vie, t'as des surprises. À partir de là, paye tes dettes. Les dettes qui ont plus d'intérêt.
Ça peut prendre des années, là.
Ouais. Oui, mais c'est là, c'est un appel de priorité, c'est peut-être pas facile si t'as une famille. Idéalement, c'est pas de mettre une mauvaise situation du début, mais même si t'en es, c'est être réaliste avec toi, dépendamment de tes priorités. Je veux-tu continuer mon style de vie que je dépense comme que je fais là, puis je vais jamais faire de progrès, ou que je suis prêt à couper drastiquement ou à essayer de faire plus d'argent pour me mettre dans une meilleure position. Donc, payer tes dettes, pas te mettre plus en dette. à partir de là, une fois que comme gros tes grosses dettes sont payées, ça serait juste, comme je disais, investir dans un index fund, une certaine période, pas le regarder, laisser faire son affaire. Je pense que ça se résume
pas mal à ça.
L'average person, c'est pas si compliqué. Ça, la plus grosse affaire, c'est utilise tes cartes de crédit d'une manière responsable. Puis tu sais, peut-être si tu sors des études, t'as déjà des études, va pas t'acheter un jour nu.
Ouais.
Ça fait demain. Je vise pas personne, je vise juste la grosse majorité des gens, c'est ça qu'ils font. Puis c'est pas une bonne décision. C'est le temps de ramasser de l'argent puis de mettre de l'avant. Tu commences à reculer quand tu fais ça.
Alright, fait.
That's it.
Ça va pas bien mes affaires d'abord, c'est pas pire.
Ouais.
J'essaie de suivre ça le plus possible, fait que ça me rassure. Merci d'avoir accepté de parler dans mon podcast. Ça a duré 1h20, je pense que c'est le plus long à date.
Ok, pas pire. Ça s'est fait naturellement, c'était pas.
Ouais, non, c'est ça, c'était pas
compliqué. Ouais.
Ça a bien été, bon, quand même. Tu as autre chose à dire?
Non, merci de nous avoir écouté. Ça a rendu jusqu'à ici. Là.
Ouais, je sais pas s'il y a quelqu'un. On disait pas à toutes les fois, mais tant du monde qui se rend à la fin, là, ouais. Parce que je sais pas c'est qui, là, mais
ouais.
Certaines personnes qui s'écoutent jusqu'à la fin, puis je suis quand même grateful de ça. Il y a sûrement quelqu'un qui écoute là live, fait que merci.
Ah, c'est vrai, tu vois les metrics, toi.
Ouais, moi, je veux toutes les stats, pis ça.
Ben, cool, je peux t'enjoyer ça, peu importe qui c'est.
Ouais, ouais. Peut-être qu'il a sorti un petit point positif, quelque chose de...
C'est ça qu'on espère.
C'est dans ce but, hein.